I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je crois qu'en fait, à partir du moment où on a envie de raconter des histoires, on est auteur. Enfin, voilà. Et à partir du moment où tu racontes une histoire par écrit ou ce genre de choses, ou que tu crées un univers, bah, t'es l'auteur d'un univers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif,
le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance.
Je m'appelle Laurent Bazar.
Je m'appelle Jérémy Kleiss et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique.
That's right. Si l'acte de création s'étend au-delà du seul champ artistique, que le boxon peut s'apprivoiser et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile, alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de dépassement de soi.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast. Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Alors Patreon, qu'est-ce que c'est ? Moi j'utilise Patreon depuis presque 2 ans et systématiquement, même si j'en parle à chaque fin d'épisode, on me demandait de temps en temps qu'est-ce que c'est Patreon ? Est-ce que c'est un réseau social ? Les gens me disaient je reçois des mails de Patreon, je comprends pas ce
alors,
que c'est.
Alors comment t'expliques ça ?
Bon alors, concrètement, si vous êtes créateur, si vous êtes illustrateur, podcasteur, musicien, vous pouvez créer une page Patreon et en échange de contrepartie, vous demandez aux gens de vous soutenir. Alors, par mois, vous pouvez mettre autant de paliers que vous voulez, vous pouvez en mettre 1, vous pouvez en mettre 50, c'est vous qui décidez. Par exemple, ça peut être genre 5, 10 ou 15 euros par mois. Et en échange, vous donnez du contenu exclusif. Donc ça peut être par exemple une illustration exclusive, ça peut être un sneak peek d'une bande dessinée, ça peut être un morceau de musique, un work in progress.
Ça peut être des tutos également.
Ça peut être des tutos, ça peut être des articles.
Et ça permet donc à la communauté de rester connectée sans arrêt avec l'artiste.
Voilà, c'est un échange. Et vous pouvez, du coup, vous faire rémunérer. Parce que bon, quand on crée un projet, au fur et à mesure, bah, parfois, on a besoin de rentrer des ronds pour juste permettre au projet de continuer.
Bah oui, bah, en fait, c'est ça, c'est le principe du crowdfunding. Hein.
Oui, c'est une plateforme de financement participatif, tout simplement. Sauf que c'est pas juste pour un one shot, c'est tous les mois.
Et en fait, plus on va être à 6 mètres, plus ça prendra de l'ampleur et plus ça sera chouette.
Donc, si vous êtes créateur et que vous aimeriez simplement fédérer une communauté autour de votre projet et ramener quelques petits ronds, quelques petits pesos, eh ben, voilà, mettez-vous sur Patreon.
Patreon est fait pour vous.
Pour en savoir plus, visitez www.patreon.com. Bon.
Eh bien, Jérémy, alors, comment vas-tu ?
Eh ben, ça va, toujours vivant. Oui, oui. Non, ça va. Alors, pour les auditeurs qui savent pas, je m'occupe de mon petit garçon pendant 2 mois et demi. C'est ça que tu voulais me demander. Hein.
Exactement.
Et ça va. En ce moment, il y a ma belle-mère à la maison. Merci. Merci, Denise. Non, elle nous aide. Mais non, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que c'est pas simple d'être créatif et de fonctionner au ralenti, mais j'en profite pour prendre du bon temps avec mon fils.
Voilà. Super. Ouais. Puis t'es obligé de t'organiser comme ça.
Ouais, grave, de ouf. Mais voilà, ça me fait du bien là cette semaine. Je peux bosser et te voir pour un petit peu enregistrer.
Ça, on a pu faire ça. Ça, ouais. C'est bien.
Bon, et toi, comment ça va ?
Bah, l'actu est pas super. Parce que monsieur Poutine a décidé d'envahir un pays.
Oui, évidemment, ça lui a pris c'est clair
ça.
Que ça plombe.
Non, ça lui a pas pris comme ça. Ça fait très longtemps qu'il avait envie de le faire. Il a mis à exécution. Et le monde est en attente de la résolution de cet horrible conflit. Donc ça remet beaucoup de perspectives aussi en place. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le monde, en fait, tel qu'on le connaît, eh ben, il peut du jour au lendemain en fait, complètement basculer.
Ouais,
et ça redistribue les cartes. Et je pense qu'il y a une solidarité artistique internationale qui est importante aussi à mettre en place. Et je pense qu'il y a plein d'initiatives qui sont lancées. À ce sujet-là pour justement aider des artistes ukrainiens, des créateurs ukrainiens et pour leur donner une possibilité aussi de s'exprimer parce que forcément s'ils ont besoin de dire des choses, bah il faut qu'ils aillent aussi dans les autres pays. Donc du coup c'est bien de pouvoir les accueillir aussi, voilà.
J'aurais jamais cru qu'on parlerait d'une déclaration de guerre sur une intro d'un épisode de Sens Créatif. Ça le marque vraiment dans le temps, du coup, cet épisode. Mais c'est vraiment la news qui sape le moral de ouf, quoi.
Ouais, complètement. Puis je veux aussi saluer en fait tous les artistes russes aussi, parce que c'est pas faut pas confondre l'action militaire avec le peuple russe en soi. Bah forcément, la culture russe, la culture ukrainienne, c'est des cultures qui nous touchent beaucoup, qui sont très fortes, très ancestrales. Et c'est chouette de pouvoir continuer à avoir ce lien artistique international avec tous les créateurs du monde. Voilà.
Exactement.
C'est un petit message comme ça que je voulais passer.
Ouais. Ben, c'est le boxon. Et je crois que du coup, t'as un truc à dire à ce sujet-là.
Ouais, carrément. On a lancé un nouveau format sur Sens Créatif qui s'appelle Le Boxon Créatif.
C'est sorti la semaine dernière.
Exactement. Et où on parle dedans, bah, simplement de chaos, de désorganisation, ouais. Comment réorganiser ce qui est désorganisé et puis comment faire face au tumulte et aux perturbations. Donc là, on y est oui, complètement dans le thème. Et on va en sortir 5 des épisodes comme ça. Donc,
c'est une mini-série.
Il y en a 4 qui vont arriver. C'est une mini-série. Sur le premier épisode, on a essayé de définir un petit peu ce qu'était le boxon. Et de traiter d'un sujet qui est jouer le jeu du sens en jeu et comment optimiser sa créativité avec cette technique secrète de ninja. Mais on va dans les prochains épisodes certainement aller dans des thématiques plus spécifiques. On vous dit rien pour le moment, no spoiler, mais on abordera des choses qui vont certainement vous intéresser. On espère.
Et franchement, je suis très content de lancer cette mini-série et on espère que ça vous plaira énormément également. Et sinon, avant de passer à la suite, on a envie de vous parler d'autre chose.
Ah oui, Jérémy, en fait, on voudrait parler d'un prochain bootcamp en fait qu'on prépare avec Kylian depuis un moment maintenant.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est la première fois qu'on en parle. Voilà.
C'est la première fois.
C'était encore dans les cartons.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut pas encore tout dire parce qu'on travaille dessus d'arrache-pied et voilà.
Bah, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être en fait une sorte de bootcamp d'apprentissage en fait qu'on va proposer à des créateurs, des créatrices qui ont peut-être des blocages en fait sur des projets personnels et qui voudraient les mener à bien et surtout avec un groupe d'autres créateurs et de créatrices.
Exactement.
Parce que quand on est plusieurs et qu'on partage, c'est encore mieux.
Une expérience immersive. On vous en dit pas plus, on vous tient au courant, on vous en dit un peu plus prochainement. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter Mathieu Genel, le créateur du podcast Les Petites Histoires, un podcast qui est très écouté par les enfants en France, qui a été créé en 2018 et qui comptabilise aujourd'hui plus de 7 millions d'écoutes.
Eh ben,
c'est pas rien, hein?
Non, ça calme.
Mathieu est un membre du Patate Club. On a connecté l'année dernière ensemble. Et donc, lui, son kiff, c'est d'écrire des histoires pour développer l'imaginaire des enfants. Et dites-vous que sur plus de 200 épisodes produits, il a écrit 155 histoire.
C'est une machine de guerre.
Ouais, exactement. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
Et c'est pas sa formation à la base.
Et c'est ça qui est fou. Et voilà. Donc, si le fait d'écrire vous intéresse, d'écrire des histoires, de développer une voix d'auteur, voix VOX et voix VOIE, cet épisode est pour vous. Ah, on a oublié de dire aussi que les petites histoires et le Patate Club.
Ah oui, il y a un relationship, comme on dit.
Voilà. C'est-à-dire que tous les épisodes des petites histoires sont illustrés et des membres du Patate Club qu'on salue ont illustré.
Quentin Laville.
Voilà, notamment Quentin Laville et plein d'autres ont illustré les petites vignettes.
Et toi, tu as fait la
com. C'est moi qui a fait le logo. Exactement. Ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, l'illustration de cet épisode est une reprise de ce logo. Et toi, tu as aussi illustré quelques vignettes.
Exactement. Voilà. Dès que Mathieu me confie une mission pour illustrer un épisode, bah écoute, je réponds présent.
Voilà.
C'est
on
très
a
chouette à chaque fois.
Le son et l'image. Alors, dans cet épisode, on discute de l'origine du podcast Les Petites Histoires.
On discute également de son envie d'écrire et de raconter des histoires pour enrichir l'imaginaire des enfants.
Oui, c'est un truc qui est très fort chez lui. On discute évidemment de son processus créatif et comment il s'est formé sur le tas pour développer sa voix en tant qu'auteur.
De la question de la légitimité et de son désir de reconnaissance.
C'est des sujets qui nous touchent tous en tant que créatif. La légitimité, c'est toujours un sujet qui revient. La reconnaissance, reconnaître qu'on a envie d'être reconnu.
L'alignement.
Ouais, exactement. On discute aussi de son travail d'équipe.
Ah oui, parce qu'il y a toute une équipe autour de lui.
Oui, oui. Parce qu'il aurait pu faire ça de manière très simple. Il aurait pu lire lui-même ses propres histoires. Mais en fait, il y a toute une équipe avec des voix off, un sound design de ouf et tout. Et donc, du coup, on discute de comment bien s'entourer pour faire évoluer son projet, qui est quand même assez pharaonique.
Et puis également, on parle de tous les challenges financiers qui sont liés à un projet de cette envergure. Parce que il y a toujours des choses à régler. Et donc, ouais. ça demande une organisation budgétaire.
C'est clair. On discute aussi de son éthique personnelle. Parce que voilà, il s'adresse à des enfants.
Ah bah oui, il faut pas non plus faire n'importe quoi.
Voilà, quel est son alignement par rapport à ça? Et puis, il y a un tas d'autres choses liées, par exemple, au podcasting, à l'entrepreneuriat, à l'équilibre entre vie de famille, vie professionnelle.
Ouais, en gros, des trucs qui le font kiffer, mais aussi un petit peu flipper.
Oui, parce que la peur, on le ressent tous. Et puis aussi, voilà, c'est des trucs clichés, hein, mais voilà, la légitimité, la confiance en soi, les peurs, etc. C'est aussi un peu ce qui fait la substantifique moelle de ce podcast, et c'est ce qu'on va chercher. Et Mathieu se prête brillamment au jeu, et moi, c'est un épisode qui me donne particulièrement la patate. J'ai beaucoup kiffé. Je l'ai réécouté et c'est top.
Donc, bon, voilà. Je pense que tout est dit.
Tout est dit.
On va vous laisser écouter cet épisode avec Mathieu Genel.
Voilà.
Bonne écoute.
Bonjour Mathieu.
Salut Mathieu.
Bonjour les enfants. Bonjour les parents.
Ah non, pas de ça avec nous. Pas de ça avec nous.
Non, pardon, désolé.
Bienvenue sur Sens Créatif. On est très très content de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Et moi de ouf aussi.
T'as vu?
C'est cool.
Franchement, Mathieu, t'es un auditeur de longue date du podcast.
Oui.
On peut dire ça, hein. Mm-hmm. Voilà. T'es un membre du Patate Club et t'es un vétéran du podcast game. Donc, autant de raisons qui font que,
on va avoir des
autant
choses
d'ingrédients,
dire.
Voilà, qui nous ont amenés à se rencontrer en 2021 et à cette discussion aujourd'hui.
Ben oui. C'est fou le destin, quand même. Et,
ouais.
Et les rencontres.
Mm-hmm.
Rencontrer mm-hmm. des gens, les gens. C'est important.
Le podcast, c'est cool pour ça, pour rencontrer plein de gens.
De ouf.
Bon, bref.
Prendre le temps de discuter.
Yes, c'est ce qu'on fait. Mathieu, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais brièvement te présenter? T'as vu, j'allais dire te raconter.
Allonge-toi et raconte-toi, Mathieu. Donc moi, je m'appelle Mathieu Genel. Je travaille dans la communication et j'ai fait un petit hiatus pendant 3 ans, justement, où j'ai écrit des histoires pour les enfants. Et aujourd'hui, en fait, je mène les deux. C'est-à-dire que j'ai essayé de vivre des histoires pour les enfants et d'un podcast et puis d'une autre aventure entrepreneuriale avant. Et maintenant, je suis podcasteur, auteur d'histoires pour enfants et planeur stratégique. C'est-à-dire que je fais du conseil en strat de communication pour les marques.
Bon, on reviendra sur tout ça. Raconter des histoires pour développer l'imagination des enfants, notamment des enfants qui n'ont pas forcément accès à la culture, c'est un peu ta mission de vie. On sait, pour te connaître un tout petit peu, je sais que c'est un truc qui est hyper viscéral chez toi. Mm-hmm. D'où te vient ce besoin?
Ce besoin, alors je crois que ça vient depuis que je suis tout petit, où je me raconte des histoires et j'aimais bien, voilà. Et en fait, il a été réactivé, il était très latent et j'ai jamais écrit. Hein. Je suis pas quelqu'un qui lisait beaucoup, je suis pas quelqu'un qui a une passion pour l'écriture depuis qu'il est enfant et qui a plein de manuscrits et plein d'histoires, soit géniales, soit pourries dans un tiroir. Pas du tout. En fait, j'ai commencé à réécrire et à vouloir raconter des histoires... parce que pendant un temps, je suis beau-père, pour essayer de créer un moment le soir avec mes beaux-enfants, mais qui pour moi sont mes enfants, Alice et Martin, je leur improvisais des histoires en fonction de thèmes qu'ils me donnaient le matin. Et puis, je l'ai pas fait très longtemps, mais j'ai adoré ces moments, et a priori eux aussi. Et puis, à un moment donné, est arrivé un moment de ma vie professionnelle où je me suis dit, ah, j'aimerais bien raconter des histoires aux enfants de manière un peu plus...
concrète,
régulière. Dans mon métier, je l'adore, mais c'est pas ça. C'est pas ce qui est viscéral chez moi. C'est raconter des histoires, même si je le faisais auprès de Marc. Je veux le faire auprès des enfants et je veux me lancer dans un projet qui a pour but, comme tu le disais, de essayer de raconter des histoires et de les rendre accessibles au plus grand nombre d'enfants possible, quel que soit leur rapport à la lecture ou à la langue. Et au début, ça a donné lieu à un premier projet qui s'appelait Telming, qui était une plateforme de lecture qui voulait rendre les textes accessibles. Et en fait, elle n'a jamais marché, mais dedans, il y avait la volonté d'utiliser le son pour rendre certains textes accessibles, un petit peu à la manière de sous-titres, en fait, si on veut. Et cette fonctionnalité n'a jamais marché, mais vu que j'avais des fichiers audio, je me suis dit, bon, tiens, je vais lancer un podcast. C'était en juillet 2018, au même moment où je testais mon service. Et puis, en fait, le service a périclité un an après, pour tout un tas de super bonnes raisons, à savoir, je me suis pas lancé de la bonne manière, etc., etc. Et puis, en fait, le podcast a continué parce que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire parce qu'il y a des gens qui m'écoutent.
Donc le choix du podcast audio... c'est suite à ce projet avec Telming, parce que vu que il y a sûrement des personnes qui vont nous écouter qui rêveraient aussi de faire du travail d'auteur, d'écrire des histoires, il y a beaucoup de gens qui pensent à simplement écrire un livre ou écrire pour la presse jeunesse ou des choses comme ça. Toi, t'as décidé de raconter des histoires en podcast, et donc pourquoi ce choix? Mais si je comprends bien, c'est parce que ça découle d'un précédent projet qui au final n'a pas abouti.
Il est mort le projet. Voilà. Non, mais c'est vraiment, c'est ça.
Non, parce que t'étais pas passionné de podcast à la base, en fait. Tu t'es pas dit genre.
J'écoutais pas.
Tu t'en cognais.
Je m'en tamponnais le coquillard, mais de ouf. Et en fait, non, c'est juste que, en fait, c'est.
Ah, j'aurais voulu, tu sais, genre, j'aime trop le podcast, c'est un média trop beau, et puis je me suis dit que j'avais envie d'investir ça. Non, en fait, c'est juste, ça s'est fait, quoi.
C'est par hasard. Vraiment complètement par hasard. Il n'y avait aucun calcul. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, et peut-être pour la petite histoire. Lol.
La petite histoire.
Placement de produit.
Ah, mais j'adore la galéjade et tout. C'est formidable, ce moment qu'on va passer ensemble. On va avoir plein de blagues. Et plein de jeux de mots. Non, je me suis lancé. Le podcast est sorti. Avant un podcast qui est magistral qui s'appelle Oli, enfin une histoire et Oli de France Inter, une semaine ou 15 jours avant. Voilà, donc je suis très content. Il y avait d'autres podcasteurs avant, mais effectivement, à ce moment-là, à partir du moment où France Inter est arrivé dans le game, il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées. Et avant, effectivement, c'était complètement par hasard. J'ai toujours adoré les sagas MP3, type Nihilbug, j'en suis un grand fan.
Ah oui, oui, oui. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait rester chez moi à faire des chaises en bois.
À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri.
Voilà, par contre, je suis nul en
mémoire. Mais t'es pas Nyctalope.
Non.
Voilà. T'as vu, je les connais, mes références. Hein.
Non, je les connais. Il y a combien d'épisodes du donjon?
Il y en a beaucoup.
Je dirais beaucoup.
C'est monstrueux,
hein. Mais c'est marrant. Excuse-moi, on fait juste une parenthèse de Nihilbug, là, mais parce que aujourd'hui, voilà, on fait du podcast, j'adore ce truc. Mais vraiment, à l'époque, le donjon de Nihilbug, c'était vraiment, pour moi, c'était une révélation. En fait, je les connaissais par cœur avec un pote, sachant que aussi, quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai fait un stage en podcast. Et j'avais l'impression que ça allait me servir à rien. Voilà, donc c'est drôle en fait.
Moi,
voilà.
Je crois que la plus vieille série radiophonique que j'ai écoutée, bah, c'était Signé Furax. Je me le suis tapé tous quoi, du premier au dernier, et ça m'avait ravi. Et c'est vrai que j'avais pendant des années, j'avais pas retrouvé en fait cette sensation de d'écouter des histoires, tu vois, à l'audio quoi.
Eh ben on y est.
Et là on y est, voilà.
Bon, du coup,
Mathieu,
le donjon de Nihilbug.
Voilà. Non, mais sinon c'était tout. Effectivement, l'audio pour moi c'était pas une évidence. C'était juste un moyen pour rendre accessibles les textes que j'écrivais ou que d'autres auteurs que j'avais embarqués dans mon aventure écrivaient.
Cela dit, pour rendre tes histoires accessibles au plus grand nombre, le podcast y a pas mieux.
Oui, mais ce que je voulais, c'était rendre des histoires à lire accessibles au plus grand nombre.
Ah oui, oui, oui.
Voilà, c'était ça à l'origine.
D'où le service d'origine, ouais.
Exactement. Et puis en fait, ça a pas marché, encore une fois, pour tout un tas de raisons. Je crois encore dur comme fer à ce type de service. Et d'ailleurs, il y a des applications, qui sont en train de se lancer dans cette veine. Et franchement, ils ont tout à fait raison. Parce qu'il y a un vrai problème d'accessibilité à la lecture aujourd'hui. Et puis de maîtrise et de compréhension, etc., etc. Mais voilà, l'audio, je continue et je kiffe.
Ok. Et donc, ouais, vas-y.
Est-ce que t'avais un univers en fait quand t'étais petit, pour revenir un petit peu aux origines, parce que tu tu lisais pas forcément beaucoup, tu regardais des dessins animés, comment tu te nourrissais en fait?
Oh bah Club Dorothée, hein, je pense que comme tous les gens qui sont nés dans les années 80. Voilà, Jace, c'est les Transformers, c'est tout ce qui se passait aussi sur M6 Kids. En fait, moi, j'ai continué vraiment à regarder les dessins animés. J'en continue d'ailleurs en bouffer une quantité astronomique, plus que des séries.
Tu regardes plus de dessins animés que de séries?
De films d'animation et de séries, ouais, je prends plus de plaisir.
Ouais, donc tu baignes quand même dans un univers qui est assez tourné finalement vers l'enfance, même si tous les dessins animés sont pas faits pour les enfants. C'est t'es accro à ça, quoi.
Ouais, je suis accro à ça parce que j'adore l'imaginaire en fait. Les trucs qui me raccrochent trop à, enfin, j'aime bien aussi, mais je...
Un film de théâtre français un peu misérable.
Ouais, mais tu vas trouver ton kiff dans l'animation, quoi.
Ouais, et puis parce que, enfin, voilà, pour moi une des plus grandes séries qui existent animées, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Pas le film, surtout pas. Ne vous parlez pas du film, parce que ce qu'ils ont fait, c'est impossible.
De Monsieur M. Night Shyamalan.
Oui, enfin, c'est résumé une saga aussi grande en un seul film, et c'est impossible. Tu prends trop de raccourcis, c'est une des raisons pour lesquelles c'est nul. Mais voilà, c'est une série qui est formidable et qui raconte tellement de choses, tellement de choses. Et ça fait partie des trucs que j'ai donné à regarder à Martin dès qu'il avait l'âge, enfin dès qu'il avait 6 ans, je crois. Je lui ai donné à 6 ou 7 ans à regarder. Il a tout bouffé.
Donc les dessins animés.
Ouais, donc beaucoup de dessins animés, pas mal de BD tardivement, et BD sous toutes leurs formes, que celles soient européennes, comics ou...
Donc là plutôt quand t'étais ado alors, les BD.
Ouais, même on va dire young adult, c'est plus... C'est, en fait, je me suis mis à la BD quand je devais avoir 18 ans, quand j'ai fait un stage en fait dans une librairie qui s'appelle Aladdin à Nantes, qui est très connue, et il y avait Georges à l'époque qui travaillait là-bas et qui m'a fait découvrir la BD. Moi j'étais plus... manga. Il m'a dit les mangas c'est bien, mais tiens je vais te faire découvrir 2-3 trucs que moi j'aime bien, et c'était super cool.
Ok, donc à la base pas forcément passionné par l'écriture, mais voilà, t'aimes les dessins animés, les bandes dessinées, etc. Et à la base, toi tu l'as dit tout à l'heure, professionnellement t'es planeur stratégique, donc même si c'est raconter des histoires pour les clients, a priori ça a rien à voir avec le travail d'auteurs qui racontent des histoires, et pourtant aujourd'hui
ça reste du storytelling.
Oui, c'est voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un lien, mais c'est quand même une approche différente. Voilà, t'as pas une ce qui est quelque chose d'assez marquant dans ton parcours, c'est que t'es hyper autodidacte, et aujourd'hui ben ton podcast Les Petites Histoires, c'est un des podcasts jeunesse les plus écoutés en France, dans le top 3, top 5, quelque chose comme ça. Aux dernières nouvelles, tu avais 7 millions d'écoutes. Il y a sûrement des auditeurs et des auditrices qui vont nous écouter, qui font, entre guillemets, un travail rien à voir et qui rêveraient eux aussi de développer leur voix en tant qu'auteur, autrice. Et on aurait voulu savoir, c'était comment pour toi ce saut pour te lancer dans l'écriture et en tant qu'autodidacte?
Alors, j'ai fait les choses dans le désordre. Ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça à la maison, c'est dangereux. J'ai posé ma dème. Et je me suis dit, bon, maintenant que t'as posé ta dème et que tu veux créer un service de lecture pour les enfants, ce serait peut-être bien que tu vois si tes histoires, quand tu les écris, c'est bien et si tu peux tenir un rythme. J'aurais dû le faire avant. Et donc, en fait, je me suis mis à écrire tous les jours, à essayer de construire des histoires et à se dire, ok, il faut que je sorte une histoire par semaine. Donc, comment est-ce que je fais? Comment je fais? J'essaie d'écrire tous les jours, j'essaie de me renseigner sur comment tu structures une histoire, parce que je ne savais pas.
Des livres?
Non, je suis incapable de faire ça.
Donc, tu t'as appris en faisant?
Ouais, pour le coup, c'est très rigolo parce que alors j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps, je crois que c'était Léa Matouf, donc Léna Situation, qui disait je suis autodidacte, je regardais des vidéos sur YouTube, etc. Et il y a un mec en commentaire, bon, un hater comme d'hab, qui dit c'était sur Combini, je crois, hein, qui était pas mal, hein, c'était sa masterclass YouTube. Et qui réagissait sur le côté autodidacte en disant autodidacte, non, c'est quelqu'un qui se construit lui-même et il regarde pas de tuto. Je suis pas du tout d'accord. C'est l'ayatollah de l'autodidactisme. je ne savais pas que ça existait. Et effectivement, moi, en fait, j'ai commencé un peu tout seul, mais surtout ce que j'ai fait, vu que je ne suis pas capable de lire des livres, je les ai tous, hein, je pense chez moi. Vraiment, j'ai ma pile. Je suis pas capable de les lire parce que ça me passionne pas. Par contre,
Ça te passionne pas de lire?
De lire ce genre de livre. Oh, j'ai beaucoup de mal. Les livres théoriques, en fait, j'ai beaucoup de mal. En revanche,
we make the road by walking, by tu vois, c'est genre
pas complètement en fait, parce que justement, j'ai suivi des ateliers. Mmh. Donc à la NRF qui est une institution française pas que d'écriture, mais ils proposent des super ateliers. Je suis aussi allé à l'atelier Les Mots. Donc voilà, c'est deux ateliers en fait, il y en a un qui est un peu plus nouveau, hein, parce que Les Mots est beaucoup plus récent, mais qui ont des super approches. Et puis aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une application qui s'appelle Masterclass. Je ne suis pas sponsorisé. mais qui est géniale.
Non, elle est formidable.
Elle est formidable.
Ça vaut le coup. Tu la connais?
Oui, je la connais. Alors, je l'ai pas encore souscrit, mais c'est quelque chose que j'envisage de faire parce que, en fait, je crois que c'est à peu près pour 200€ par an.
Ouais.
Tu as accès aux meilleures masterclass du monde. Parce qu'en fait, tu as David Lynch, tu as Bill Clinton, je crois, qui sait qu'il y a d'autres.
Ouais, enfin, t'as plein de verticales, plein de thématiques. Mais en fait, moi, celle de l'écriture, c'était intéressant parce qu'il y avait notamment, deux auteurs que j'adore.
Neil Gaiman. Ah, voilà. On est d'accord.
Neil Gaiman, au secours, hein, formidable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Neil Gaiman.
Je ne connais pas, c'est qui?
Tu ne connais pas Neil
Gaiman?
C'est le créateur de Sandman. Sandman, qui est un comics hyper connu pour ceux qui connaissent les comics.
Je suis pas très comics.
Va être adapté.
Est-ce que tu as vu la série The Good Omens?
Oui.
Donc tu le connais.
C'est le gars qui a écrit Good Omens?
Ouais.
Que j'ai adoré.
Qui a écrit aussi American Gods. Le livre que la série.
Voilà. Donc c'est l'auteur anglais absolument incontournable en fait. Voilà. C'est pour ça que tu le connais.
Sans le connaître, c'est ça.
Voilà. Et R.L. Stein qui a fait Goosebumps, Chair de poule.
Ok. Oui. Les romans pour ados.
Ouais. C'est un gros succès.
Qui est un monstre. Voilà,
dans les années 2000. Enfin,
c'est 90-2000.
Ouais, c'est ça.
Et donc je me suis dit OK, je souscris, on me l'a offert à Noël et voilà, et l'idée c'était quand même de me nourrir parce que enfin j'ai pas la prétention de, et d'ailleurs toujours pas, je connais un peu la structure, mais en fait, ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est que plus je lis, parce que maintenant je lis aussi beaucoup parce que c'est hyper important, mais de littérature jeunesse. Plus en fait, je comprends pourquoi mes textes sont faibles, ou ont des défauts. C'est-à-dire que je sais que mes histoires, en fait, au début, quand je me suis lancé, quand j'ai présenté ce projet, j'essaie de trouver des gens pour m'accompagner et tout, ils m'ont dit non mais prends des grands noms. parce que tes histoires vont intéresser personne.
Des grands noms qui peuvent écrire pour toi.
Ouais, ou... parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'était en fait, si c'est les histoires de Mathieu Jonnel, ça va intéresser personne. Mmh. Forcément, je l'ai mal pris parce qu'il y a de l'ego là-dedans.
Un petit peu.
Et en fait, la réalité, c'est que je crois qu'on a tous des histoires à raconter et que toutes nos histoires sont intéressantes. En revanche, effectivement, la manière de les raconter.
Il y a l'art et la manière, ouais.
Il y a l'art et la manière. Je suis pas adepte de. Il faut forcément que ce soit un grand nom qui écrive des histoires pour les enfants. Je suis pas certain.
La preuve.
Voilà. Mais après, par contre, il faut travailler. Et aujourd'hui, je suis qu'au début de mon chemin. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai un succès qui est certain. Voilà.
Sur le podcast.
Dans l'univers du podcast. Donc, c'est un petit univers. C'est un succès qui reste précaire parce qu'il y a plein de choses encore à construire. Surtout, encore une fois, ça ne fait que 3 ans que j'écris.
Oui. Alors,
j'ai beaucoup écrit. Donc j'ai rattrapé, on va dire, mon retard.
C'est quoi sur 200 histoires produites, 155 que t'as écrit, toi?
Ouais, 150-155. J'ai pas le compte exact.
Ouais, quand même.
C'est effectivement assez dense. C'est fatigant. Après, il y a des histoires longues et il y a des histoires très courtes. Hein, dans les 155, il y a des histoires qui font une minute.
Ouais, ouais.
Mais voilà. Et puis, il y a plusieurs séries. Et là, les séries, c'est quand même des gros morceaux. On en parlera peut-être après. Mais voilà, j'ai commencé à me tester. Pour revenir à ta question, c'est comment est-ce que j'ai commencé? C'est, je me suis dit, OK, tu vas te mettre à écrire. En fait, mets-toi, et c'est un peu ce que tout le monde dit, hein.
Ouais, just do it.
Ouais, juste fais-le. Et puis surtout, en fait, astreins-toi un minimum. C'est important d'avoir
une discipline, tu t'es forcé, une routine.
J'ai essayé, je suis nul en routine. Par contre, je me suis dit, t'écris tous les jours. Est-ce que c'était toujours à la même heure? Non. Est-ce que c'était toujours pendant la même période?
Voilà,
non.
En fait, ouais, c'est pas une routine, c'est simplement de cocher une case, en fait, chaque jour. Je l'ai fait.
Oui,
c'est
mais ça. Quand même, pour le réussir à le faire tous les jours, il faut être un minimum discipliné.
Oui. Moi, je pense.
À quoi ça ressemblait, ta discipline?
Ah ouais. Ok, d'accord, on va en parler après.
Alors, ma discipline, c'était, généralement, c'était le soir, une fois que les enfants étaient couchés, j'essayais d'écrire. Voilà, ou j'essayais d'écrire entre midi et deux sur ma pause déj parce que j'étais déjà parti dans ma tête et donc du coup mes pauses déj généralement je les passais à bosser, bah là non, je les passais plutôt à écrire. Mais c'était plutôt ça, c'était sur des temps où en fait je pouvais être potentiellement tout seul. J'écrivais.
Et t'arrivais à tu trouvais la force, tu sais, the driving force comme on dit en anglais, de le faire, parce que ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu sais, sur les réseaux par exemple, il y a genre Inktober ou bien the 100 days project, enfin c'est tous les trucs où en gros on vous dit simplement disciplinez-vous pendant 100 jours, écrire un poème, faire un dessin, n'importe quoi. Et souvent l'histoire, c'est que gens ils sont tout feu tout flamme et puis après en fait en cours de route ils s'arrêtent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas évident.
Mais attends, c'est marrant cette histoire de discipline. Là.
Des projets. Pourquoi, mon cher Laurent?
Mais je vais te dire pourquoi c'est marrant. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut avoir envie aussi. Parce que même si tu te mets une discipline, si t'as pas l'envie derrière, la motivation que tu te mets vis-à-vis de toi-même, c'est pas la discipline qui va solutionner.
Non, la discipline pour la discipline, non. Ouais, c'est ça.
On est d'accord.
Et j'imagine que toi, t'avais une vision où tu t'es dit, je veux réussir. Mais ce que je veux juste dire, c'est que les gens qui se lancent dans les projets comme les 100 Days Project ou les Inktober, ils ont sûrement aussi une vision. Ils se disent, je veux réussir à faire ça.
C'est important. Hein.
Et souvent, le fait de le cadrer, genre, tu te dis, il y a d'autres personnes qui le font avec moi, ou bien c'est un projet qui existe, ça te donne une structure. Que toi, Mathieu, t'es tout seul à te chauffer. Et tu me dis quand même que malgré tout, t'as réussi à, je me dis qu'il faut quand même avoir le feu aux fesses pour vraiment vouloir, tu vois.
Bah en fait, moi, dans la vie d'une manière générale, je fonctionne par objectif. Typiquement, je fais une aparté. J'ai malheureusement pas mal de problèmes physio. Je me fais des inflammations en un claquement de doigts, etc. C'est relou. Je suis obligé de faire du sport. Bon ben voilà, ben du coup en fait j'ai pas d'autre choix que de faire du sport toutes les semaines, au moins 3 fois par semaine, donc voilà, je le fais. Là, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'en fait il fallait absolument que je me teste, sur l'écriture. Encore une fois, j'aurais dû le faire avant, pour savoir en fait si j'étais capable de tenir un rythme.
Ouais.
Parce que si je n'avais pas été capable de tenir le rythme avec mon niveau ultra débutant, ça aurait voulu dire que dans la manière dont j'envisageais mon projet derrière, il aurait fallu que je voie les choses différemment. Peut-être écrire moins et donc demander à plus de gens d'écrire, etc. Et c'est ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire que j'ai invité des connaissances ou copains auteurs et autrices à rejoindre le projet. Évidemment, je l'ai payé pour me soulager et pour ne pas être tout seul à écrire. Et puis, quand mon projet, si je fais un petit saut, quand mon projet en fait de plateforme de lecture a périclité et que je me suis concentré sur le podcast pendant quasiment 6 mois, 1 an presque. J'étais le seul à écrire. Donc c'était 4 histoires par mois à écrire solo.
Oui, c'est intense.
Et en plus, j'avais cette espèce de folie de dire, ok, c'est des univers différents à chaque fois.
Start from scratch à chaque fois.
Ouais, et ce qui est pas évident.
Pourquoi
ouais,
parce pas. Que tu dois reset ton esprit et repartir.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Voilà, et ce qui à la fois était vachement bien parce que ça m'a obligé en fait à explorer plein de choses et ce qui est intéressant, c'est je suis pas sûr d'avoir encore trouvé ma voix VOX.
J'allais te le demander, ouais.
Voilà, non,
ma voix. Mais t'as trouvé ta voix VOIE?
Ouais, je pense, plus ou moins. Après, c'est toujours compliqué, parce que c'est le chemin est toujours sinueux.
Allez, raconte-nous.
Mais c'est pas droit. Mais oui, j'ai envie de continuer à écrire des histoires, ça c'est sûr et certain. Mais je comprends aussi que, bah, par rapport à mon travail professionnel, j'ai aussi envie de continuer à le faire parce que j'y trouve un certain intérêt en fait. Parce qu'il y a beaucoup de stimulation intellectuelle.
Le travail de planeur stratégique.
Ouais, tout à fait, de conseil.
Mais excuse-moi, je te coupe, mais il me semble qu'il y a eu des moments où tu étais genre, vas-y, rien à foutre, je laisse tout tomber, je me consacre entièrement aux petites histoires.
3 ans de ma vie. 3 ans et demi. Ouais, tout à
donc
fait.
Donc j'imagine que c'est un ping-pong entre le vas-y, j'y vais à fond, vas-y, en fait, j'ai quand même besoin d'un projet annexe. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que il y a un peu ces deux écoles, tu sais, les personnes qui disent pour réussir, il faut tout lâcher et y aller à fond. Et il y a les personnes qui disent c'est bien d'avoir un certain équilibre.
Ouais, pour mieux gérer, ouais.
Bah, en fait, le truc par rapport à ce point, c'est que pendant 3 ans et demi, grâce à un truc formidable qui s'appelle le chômage, et on ne le répétera jamais assez, hein, mais la première source d'entrepreneuriat en France, enfin ça reste l'État, quoi qu'on dise aujourd'hui sur le gouvernement et compagnie, le chômage était, je sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais en tout cas à mon époque, c'était il y a pas si longtemps, ça a été une putain de chance pour pouvoir me lancer et justement explorer à fond ce projet et cette envie et de savoir si je pouvais réussir à en vivre. J'ai probablement pas fait les bons choix. Je pourrais probablement en vivre aujourd'hui parce que j'aurais décidé de faire de la prod pour des tiers. Il y a des boîtes qui fonctionnent très bien comme ça.
Tu veux dire par exemple des podcasts en marque blanche et des trucs de genre?
Ouais, des podcasts pour enfants en marque blanche où je me serais ouvert et pas faire que des podcasts pour enfants, etc. Mais j'ai pas eu envie en fait. Moi, ce à quoi je m'attache, et c'est ça aussi qui a été hyper intéressant dans l'exploration, c'est je veux raconter mes histoires. Mmh. Et donc à un moment donné, mais par contre ça ne me gêne pas. Demain, si une marque vient me voir en me disant, hey, coucou. J'ai un super univers. Est-ce que tu veux raconter une histoire dans mon univers?
Oui, oui.
Je dis d'accord, mais c'est à ma manière.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est tellement important.
Par contre, il faut qu'il y ait un certain alignement aussi avec ce que tu fais. Tu peux pas partir dans 15 000 directions. Il faut que ça soit raccord aussi parce que t'as certaines valeurs. On va en parler. Et je suppose que t'as pas envie de partir dans une direction où tu vas regretter après de l'avoir fait, même si c'est pour une bonne somme d'argent.
Ouais, c'est ça.
Et puis, est-ce que tu écrirais une histoire pour Barbie?
Pourquoi pas? Parce que ils essayent de s'ouvrir d'une certaine manière aujourd'hui, même si c'est très opportuniste. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a des trucs à faire. Après, ça dépend du cahier des charges. Oui, ça dépend de la liberté, en fait. Si on me contraint énormément et qu'on veut me faire passer des messages au forceps qui sont pas raccord avec ce que je pense. Ouais. Bon, okay. Ou si on veut me faire des histoires avec des morales qui sont bien appuyées, moi j'ai du mal. Pourquoi? En fait, c'est une question de... Et ça aussi, je l'ai travaillé au fur et à mesure et je l'ai compris au fur et à mesure. C'est au début la seule ambition que j'avais et je pense que je l'ai toujours, c'est de créer des histoires qui peuvent juste en fait divertir les enfants. C'est des histoires divertissantes, donc pour ça c'est aussi le nom des petites histoires. C'est des histoires entre guillemets sans prétention dans lesquelles t'as un message ou t'as pas de message. Souvent t'en as un, c'est ce que certains de mes profs en fait m'ont fait comprendre. Mais tu le penses pas forcément en l'écrivant. Et puis, je voulais aussi que les parents s'ennuient pas. Parce que souvent, en fait, on subit Peppa Pig, on subit l'âne trop.
C'est clair. Ah, trop, je l'aime bien. Peppa Pig, un petit peu, moi.
Donc,
chacun ses bêtes noires quand on est daron ou daronne.
Ouais.
Mais, pour moi, c'est ça, en fait, le truc. C'est que, il y a vraiment ça de se dire, comment est-ce que, globalement, les parents, et les enfants, enfin, la famille, en fait, peut passer un bon moment avec les histoires. Et en fait, ce que je voulais toujours faire, c'était des histoires que, moi, j'aurais voulu qu'on me raconte. Que je trouvais cool. C'est pas que j'aurais voulu qu'on me raconte, c'est faux. En tout cas pour moi, c'est des histoires que je trouve cool. Et en fait, quand je l'ai écrit, est-ce que je trouve que l'histoire est sympa?
C'est la chose principale pour toi.
Ouais, tout à fait. Est-ce que je me pris du plaisir et quand je la lis, en fait, est-ce que je la trouve chouette? Est-ce que j'arrive à m'auto-embarquer entre guillemets quand je lis mon histoire?
Ouais. D'ailleurs, ce postulat-là, est-ce que pour toi c'est plus important que la légitimité d'être auteur? Par exemple, est-ce que tu te considères maintenant suffisamment légitime pour dire je suis auteur, j'écris des histoires, mais est-ce que finalement c'est pas c'est moins important que vraiment le plaisir que tu prends à les écrire et à les diffuser et avoir ces retours en fait de ton public?
Je crois qu'en fait, à partir du moment où on a envie de raconter des histoires, on est auteur. Enfin, voilà. Et à partir du moment où tu racontes une histoire par écrit ou ce genre de choses, ou que tu crées un univers, bah, t'es l'auteur d'un univers. Après, est-ce que ça va être intéressant ou pas intéressant? Est-ce que tu vas réussir à toucher le cœur des gens?
On dirait qu'on est légitime à partir du moment où t'écris.
On le fait, en fait, ouais.
Ouais, je pense.
Non, mais c'est hyper fort parce que je suis sûr que, de nouveau, il y a des personnes qui vont t'écouter et nous écouter, qui vont se dire, mais non, mais genre, la légitimité, je trouve que c'est tellement un sujet qui est tellement abordé et plein de gens que ça freine, que ça bloque.
Bah tu vois, pour les illustrateurs ou les illustratrices, moi je dis souvent t'es légitime du moment où on t'a commandé une première fois une illustration et t'as été payé pour. Enfin, je trouve la légitimité elle commence à ce moment-là quand t'es professionnel. En fait t'es professionnel du moment où
Mais je suis 100% d'accord avec toi. Non. Mais enfin moi c'est ma philosophie, c'est ce qui fait que j'avance constamment. Mmh. Et moi je sais que bref c'est une autre histoire, mais bref, j'ai jamais vraiment eu un souci de légitimité, mais pour croiser beaucoup de personnes aussi dans la communauté du podcast,
mais c'est intéressant d'en parler parce que
la légitimité c'est vraiment toujours quelqu'un. Mm-hmm. Oui, bah moi je me considère aussi comme autodidacte en tant qu'illustrateur, en tant que podcasteur. Mm-hmm. Je suis 100% autodidacte, j'ai jamais fait de formation, rien du tout. Enfin, j'ai une formation de graphiste, mais c'est tout.
Et on peut arriver à faire ce qu'on veut.
Ouais. Bon, par contre, c'est du hustling, hein. Tu vois, c'est quand même pas évident.
Non, rien sans rien. Ouais.
Mais voilà, cette question de la légitimité, elle revient tout le temps. Et toi, en fait, je trouve ça fou de juste dire, à partir du moment où t'écris, t'es légitime.
Ouais. En fait, c'est à partir du moment où effectivement, tu fais.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait,
tu n'as pas devant l'autre.
Après, je pense que c'est hyper important de se dire, à un moment donné, t'as un tampon qui vient te légitimer parce que
oui, ça fait du
t'as
bien.
Une critique, parce ouais. que t'as des retours de toi, ne serait-ce qu'une personne qui t'écoute et qui te fait un retour.
Ouais, c'est vrai que ça peut suffire à
tu l'as touché en fait.
À faire du bien.
Il y a pas besoin d'avoir. Je pense qu'à un moment donné, il y a le côté succès encore. Ça dépend. Faudra
ouais,
définir la question
de succès. Guillemets, ouais.
Mais la légitimité, c'est-à-dire que pour moi, ouais, j'écris, j'ai envie, je le fais. Quelqu'un qui fait qui se définit karatéka parce qu'il a commencé le karaté et qui se sent et qui se projette en fait dans l'avenir en se disant je vais continuer et compagnie etc et qu'il a trouvé quelque chose, t'es karatéka, je m'en fous que tu sois ceinture blanche ou que tu sois ceinture noire. Enfin, en fait pour moi il y a
après ces histoires d'ego justement, les titres auxquels on se rattache et qu'après au final
c'est des histoires de projection.
Voilà, nous ne sommes pas le titre, mais on est multiple quoi, ça fait partie de.
En fait, il y a aussi un autre truc, hein, c'est je me suis jamais posé cette question de légitimité parce qu'en fait je m'en fous.
Ouais.
Qu'en fait, c'est important de s'en foutre.
Mais, ouais,
mais t'as raison, c'est bien de le dire.
Je m'en fous. En revanche, le truc dont je me fous pas et qui est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, c'est parce que parfois je me fixais pas les bons objectifs et compagnie. C'est la notion de reconnaissance qui est rattachée peut-être à la notion de succès.
Ah ouais, vas-y, ça m'intéresse.
Et donc du coup, je me suis toujours posé cette question de mais quand est-ce qu'à un moment donné je vais être reconnu par les grands ou les vrais qui sont signés en maison d'édition, qui sont machin, qui sont trucs. Et à un moment donné, j'ai un super auteur que j'adore, qui est un pote. C'est Mathieu Salia. Je sais pas s'il écoutera et il se reconnaîtra puisque je viens de dire son nom et son prénom.
Salut Mathieu.
Mais il m'a dit en fait, t'as pas à te poser cette question en fait. De toute façon, t'es auteur et tu te sens auteur. Donc voilà. Balek. Et puis après toutes mes connaissances qui ont signé dans des maisons d'édition, qui ont des gros succès ou qui sont des auteurs qui sont en devenir et qui ont un talent de façon tous de gueudin, ils me disent mais en fait t'as vu les chiffres que tu balances, enfin t'as déjà une reconnaissance, c'est-à-dire que oui bon bah, l'édition
Non, quoi, l'édition, oui, voilà quoi.
Bah, l'édition, ouais, peut-être que t'as envie d'être édité parce que pour toi, c'est une marque de succès, mais putain, mais.
Une espèce de milestone.
Ah oui, surtout en France, quoi. J'ai l'impression que le livre, c'est vraiment le sacro-saint livre. Alors qu'en fait, tu pourrais tout aussi bien être aussi, entre guillemets, successful, dans le podcast, en fait. Mais il y a ce truc de si je sors un livre.
Non, et puis il y a pas que ça. Il y a aussi le fait de se dire, ouais, putain, t'as réussi à envoyer des chiffres qui sont pas mal, dont tu es fier, tu fais un projet aussi dont t'es super content, et puis en fait t'as un mec qui toque à ta porte et qui dit hey, toi je t'ai vu, viens on va faire des trucs géniaux ensemble. ça n'arrive que très rarement.
C'était arrivé à toi?
Non, pas du tout.
Okay.
Non, mais c'est un peu le truc de, enfin, cette espèce de fantasme de dire,
une fois que j'ai réussi à atteindre mon objectif, mais, ça va arriver.
C'est le musicien dans le métro.
Justement, enfin, c'est un fantasme. C'est toi qui dois crafter ton chemin. Mais beaucoup de gens attendent la bonne fée qui vient mettre sa baguette magique sur toi et qui va faire de toi une star.
Et à mon avis, ce qui est dur aussi, c'est quand tu craftes et que t'arrives à ce que tu voulais, il faut continuer, il faut se retrouver des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges pour avancer et jamais péricliter et faire progresser aussi le. C'est une adaptation au temps.
Exactement, en fait, ça a été un boulet en fait que je traînais, mais qui était lancinant, c'est-à-dire que c'est un peu comme une espèce de douleur que t'as et en fait t'arrives pas à l'enlever, t'as un mal de dos ou je sais pas quoi.
Le boulet, c'était le désir de reconnaissance.
Ouais, le désir de reconnaissance.
Une grosse valoche quoi.
Et voilà, c'est ça. Et pas baloche. Donc du coup, c'était un truc que je traînais un peu, mais du coup qui était un peu ambivalent parce que je me disais mais je me sens auteur. Enfin, c'est pas si ambivalent que ça en fait quand j'en parle. Parce que d'un côté, je me sentais auteur, j'avais des chiffres, etc. Et puis je faisais pas ça encore une fois pour. Je faisais ça pour nourrir une envie. Et cette envie, c'était que mes histoires soient, touchent le plus de gens possible.
Voilà, que ce soit écouté.
C'était ça mon envie. C'était pas forcément d'être le plus populaire ou ce genre de choses. Mmh. Pour moi, c'est légèrement différent. Et puis, par contre, il y avait effectivement cette envie de reconnaissance en me disant, et c'est là, en fait, où à un moment donné, quand tu réfléchis beaucoup, et moi, j'aime bien verbaliser, parler beaucoup avec les gens et tout, etc., pour essayer de comprendre des trucs. Ouais. C'est important, on le fait pas assez, en fait. Et c'est de dire, OK, en fait, gars, t'as envie d'être reconnu.
Ouais, reconnais-le, quoi.
Ouais, mais ça je le savais, je le disais. Quand j'en parle et tout, j'ai pas peur de le dire, et j'ai pas honte. Mais en fait, à un moment donné, c'est t'as fait quoi pour l'être? Bah rien. Bon bah ferme ta gueule. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est juste tais-toi et essaye de comprendre ce qu'il faut faire pour être reconnu. Et en fait, la réalité c'est que j'étais déjà reconnu parce que j'ai eu cette chance incroyable d'avoir pendant, je sais plus exactement parce que j'ai un problème avec le temps qui passe, mais je crois que c'était aux alentours du Covid. J'ai eu un papier dans Télérama, ou je crois que c'était un peu avant. Donc je crois que c'était avant le Covid. Télérama m'a fait un papier. C'est pas tout le monde qui en a un.
C'est toi qui ne voyais pas que tu étais déjà reconnu.
Oui, en fait, j'avais une caution en fait de Télérama, mais c'était pas suffisant parce que machin, tu vois. Et donc du coup, tu te dis non, mais en fait, c'est pas ça le truc. Et en fait,
tu voulais 4 T, pas juste 3.
Ouais, bon, j'en ai eu 2, c'est pas mal. Mais du coup, tu te dis, et j'étais super fier. Mais vraiment, j'étais fier de dire putain, c'est cool, tu vois, et j'ai influencé personne, j'ai acheté personne et tout, donc c'était génial. J'ai eu une pleine page en plus, donc c'est encore une fois, c'est
pas... sans que tu le saches.
Si, il y avait une interview avant.
Okay, mais voilà, savais pas que c'était Télérama, on va faire un papier quoi.
Je savais pas que ça prendrait cette forme-là.
Je sais que quand je dessine pour Télérama, je suis content, hein. Je dessine de temps en temps pour eux, c'est cool.
Pas se mentir.
Non, mais c'est canon parce que c'est une vraie institution, c'est des gens qui sont qui ont une certaine vision des choses et quand ils daignent parler de toi, déjà c'est cool et quand en plus ils te mettent
ils disent pas du mal.
Voilà, non mais ils te mettent
on peut être reconnu.
Donc ta reconnaissance t'a été satisfait?
Ouais.
Tu dirais aujourd'hui que t'es satisfait?
Non, aujourd'hui je suis pas satisfait. Je suis super fier de ouf.
Ok.
Et je suis fier pas seulement parce que t'as dit qu'on avait 7 millions d'écoutes cumulées, aujourd'hui on est à plus de 200 000 écoutes mensuelles, ce qui est complètement dingue et ça représente aux alentours
c'est énorme.
De 45-50 000 personnes, enfin 50 000 appareils uniques. Donc presque plus de 40 000 foyers en tout cas qui t'écoutent chaque mois. Ce qui est fou, il y a un vrai attachement. Enfin, il y a plein de signaux qui sont très très forts et qui te donnent une force et qui parfois me font chialer parce que tu te dis putain c'est touchant en fait les messages que tu reçois.
Ça te fait vraiment chialer?
Ouais. Tu reçois
combien de messages par semaine?
Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, quelques.
Mais quel message?
Mais t'en reçois quand même.
Je sens les mouchoirs.
Toutes les semaines tu reçois des messages quoi.
Oui, mais c'est pas gueudin et encore une fois, enfin c'est parce que l'engagement par rapport au canal audio, enfin, il n'est pas aussi immédiat que. Mais donc c'est déjà beaucoup. Et puis en fait, je m'en fous de recevoir une quantité d'amour. J'en reçois déjà en fait. Je quantifie pas.
C'était ce que je voulais te faire.
J'en ai reçu un litre cette semaine. Hein, c'est beaucoup. Non, j'ai pas envie. Voilà, ou 3 kilos. Mais c'est pour moi, c'est pas le truc. Et je suis vraiment fier parce que c'est aussi une vraie aventure humaine. C'est pas Mathieu Jeunel en fait, même si on dit Mathieu Jeunel.
Tiens, parle-nous de ça. Ouais. Et, alors si c'est pas que Mathieu Jeunel, qu'est-ce que représente Telming, les petites histoires, et qui est-ce qu'il y a un écosystème derrière? Comment tu
Parce que bon, t'es très DIY. était autodidacte, etc. Mais quand même, je sais qu'il y a ce désir de tout apprendre et tout découvrir. Mais à un moment donné, il y a besoin de pouvoir s'entourer et aussi d'arriver au moment où se dire « Bon, je crois que j'ai besoin d'aide. » On n'est pas invincible au final.
Warrior tout seul, ça suffit.
Oui, et puis je veux dire, ton podcast, il est quand même ultra ambitieux. Et le design sonore et tous les... Enfin, c'est... Donc à un moment donné,
tu fais pas tout seul, quoi.
Voilà.
Pas comment ça. Ah non, je ne.
Raconte-nous comment t'as pu constituer ton équipe et est-ce qu'il y a eu ce moment où tu t'es dit bon j'ai besoin d'aide.
Alors en fait, contrairement à ce que tu dis, je suis pas du tout DIY. C'est-à-dire que quand il le faut,
mais autodidacte, DIY, c'est.
Alors non, parce qu'en fait, okay. Ça voudrait dire que dès le début, sur le projet de plateforme de lecture ou même sur le podcast, je me suis dit je vais tout faire tout seul. Non. D'abord, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est dire je comprends rien. Okay. Je ne connais rien. Postulat de base. C'est pas que je comprends rien, c'est postulat de base. J'ai des intuitions, mais je ne sais rien sur ce que je vais faire. Je connais qu'Internet. Globalement, ce qui est déjà pas mal, mais déjà pas tous ces recoins. Techniquement, je me débrouillais, mais j'avais besoin d'aide. Donc, pour la plateforme,
Tout de suite, t'as demandé de l'aide, en fait.
Ouais. Contrairement à l'ayatollah d'autodidacte, tu décides d'aller voir justement des tutos, de te auto-former et d'aller voir ce que ça fait.
Pour l'écriture, oui. Donc, les ateliers, etc. Pour la voix, je me suis dit, bon, ça peut être éventuellement moi. Pourquoi pas? Donc là, j'ai pris un coach.
Tu les mets ta voix à ce moment-là?
Je me posais pas la question.
Ouais, ok. Tu t'es dit non, faut que je raconte.
D'abord, faut que je comprenne en fait ce que ça veut dire, ce que ça représente comme somme de travail. Ouais.
Quoi qu'il arrive, il fallait que tu te projettes en fait dans tout le travail et savoir qu'est-ce que c'était que de lire une histoire et de faire tout ce travail là.
Parce que je savais pas. Enfin,
c'est super démarche.
Et donc j'ai pris un coach, donc Arnaud. Et puis en fait, au bout de 3 séances. Je me suis rendu compte d'une chose. Un, je prenais pas le temps de travailler entre les séances. Et puis surtout, en fait, quand je l'écoutais, je dis, mais en fait, j'aime bien sa voix. J'aime bien les intonations qu'il prend, la manière dont il me montre les exemples et tout. Je lui dis, écoute, plutôt que de faire du coaching, ça te dirait en fait d'enregistrer? Et le mec m'a dit, ouais. Et donc Arnaud aujourd'hui c'est l'un des deux narrateurs et l'une des deux voix en fait des petites histoires avec Karine. Karine nous a rejoint plus tard, mais c'était hyper intéressant, tu vois. Je me dis ok, non mais en fait ça sert à rien que moi je le fasse, parce qu'en fait si je veux déjà bien raconter des histoires en plus de faire la promotion de ma plateforme etc. Je peux pas tout faire.
Un boulot de dingue.
Donc, moi je suis très dans la délégation, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est où est-ce que moi je veux me centrer sur le projet, qu'est-ce qui m'intéresse et sur quoi je veux pas lâcher, et puis après sur le reste qu'est-ce que je fais, et c'est ça en fait qui est important pour moi, et donc du coup
ça va déléguer.
Ouais, je pense que c'est important. Enfin, surtout sur un projet effectivement où t'as plusieurs compétences, parce que c'est pas que de l'écrit, c'est aussi donc encore une fois du son, et le son c'est la voix, et parfois seulement parfois sur ce podcast et pas du tout au début, parce que c'était un parti pris de thune, c'est-à-dire que mettre du sound design, contrairement à ce que tout le monde pense, ça prend du temps. Généralement on dit que pour 5 minutes utiles, 5 ou 8 minutes utiles, après ça dépend de la complexité du design sonore, mais de l'habillage sonore, c'est comment on appelle ça, c'est une journée de taf. Voilà, sachant que dans l'habillage sonore, il y a 3 niveaux globalement. Il y a la musique, les ambiances, les bruitages. Et donc,
et tu peux vite déséquilibrer l'alchimie entre chaque. Quoi.
C'est ça. Ouais. Et donc du coup, ça c'est un vrai travail. Choix, et au début, je l'ai pas fait. Je me suis dit non, c'est que de la voix, parce qu'en fait, quand on raconte des histoires à la maison, il y a pas besoin en fait de.
Oui.
Si tu mets les bonnes intonations et les bonnes intentions quand tu racontes l'histoire,
ça devient une musique aussi.
Et il y a des podcasteurs, podcasteuses qui racontent des histoires qui ont peut-être juste de la musique et qui racontent eux, et économiquement c'est moins cher que ce que tu fais.
Bien sûr, exactement. Il faut savoir que aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle on est, c'est-à-dire que moi, tous les mois, pour rationaliser un peu les coûts de production, on enregistre une fois par mois toutes les histoires du mois suivant. Mmh. Donc c'est entre 4 et 5 histoires.
C'est une technique qu'on voit en télévision, en radio, voilà. Juste plusieurs émissions pour réduire les coûts.
Qui veut prendre sa place, attention à la marche, etc. C'est ce qu'ils font.
Ouais.
Je m'inspire des meilleurs. Ça représente aux alentours d'une heure, 1h20 de son. Donc on enregistre ça en une journée. Donc faut payer le studio, faut payer l'ingé son qui est là pour faire la captation, faut payer le comédien, faut payer après l'illustrateur qui va faire la cover, parce que c'est pas parce que
illustre
c'est
quoi
les gens qui font des Mickey.
Ah ouais, non, c'est pas un vrai métier ça.
Non, du coup bah en fait ça sert à rien de les payer. Mmh. Donc c'est pour ça que je les paye.
Voilà.
Esprit de contradiction. je les paye pas
des membres du Patate Club d'ailleurs, hein, on
exactement,
le précise.
Exactement, tout à fait. Coucou les gens.
Et salut.
et donc après j'ai quoi d'autre? J'ai quoi d'autre? J'ai
des gens qui font la com aussi.
Non,
je l'ai design graphique.
Non, moi je l'ai enfin
tu l'as pas payé celui-là.
Si. Non mais bien sûr, j'ai payé pour la cover et compagnie. D'ailleurs, il est en face de moi. Il s'appelle Jérémy et puis il a un nom chelou.
Ouais, vas-y dis-le.
Jérémy Claes. Claes.
Ah voilà. Ouais. Claes. On a parlé avant, c'est terrible. Bon bref, on s'en fout.
Non mais Claes ça veut dire classe.
Non mais ça vient de là hein.
Voilà.
Ouais. Enfin de enfin bref.
Oui, donc t'as la classe quoi.
De Sinterklaas en fait le de Saint-Nicolas en néerlandais. C'est voilà, c'est la petite minute mais c'est mon prof d'histoire qui a fait la recherche de l'origine de nos noms de famille.
C'était monsieur comment?
Je sais plus, mais il sentait le bouc. Mais en tout cas, il nous avait scotché pour la petite histoire où il avait cherché vraiment l'origine et ça venait de Sinterklaas. Et voilà, et puis au fur et à mesure du temps, les noms de famille. Mais franchement, on s'en fout.
Ah, t'es affilié au Père Noël en fait?
Non, à Saint-Nicolas.
Oui, c'est le Père Noël.
Bah, c'est son cousin.
Bah, non.
Ah, non, le Père Noël descend de Saint-Nicolas dans la logique.
Ah, voilà, ouais. Bah, c'est Jérémy Père Noël. Je trouve que c'est nul.
Jérémy Noël.
C'est Coca-Cola qui a changé la donne.
Donc on reprend.
Oui, on reprend.
Santa Claus, hein.
Donc il y a déjà cette équipe pour le son. Après il y a les illustrateurs et puis aussi je me suis adjoint les services de d'autres auteurs parce que encore une fois écrire 4 histoires tous les mois c'est beaucoup d'énergie et puis surtout en fait quand on a pour vocation et envie quand on a un podcast comme le mien d'enrichir l'imaginaire des enfants c'est très prétentieux. Et surtout, c'est illusoire de se dire qu'on peut le faire tout seul. Mmh. Et donc, ça ouvre à d'autres imaginaires, ça ouvre à d'autres manières de raconter, etc. Au début, ce que je disais, et Thomas, s'il écoute Thomas Le Petit Corps avec qui je travaille, et puis Cécile Rubin aussi, je travaille vraiment régulièrement avec eux. Je pense que ça doit les faire marrer. Parce qu'effectivement, au début, j'essayais de donner un cadre sur des typologies d'histoire et une espèce de je leur disais, parce que je leur faisais beaucoup de retours, vraiment beaucoup de retours.
Oui, tu m'avais dit genre sur une feuille tu peux mettre 100 retours.
C'est sur une histoire. Donc une histoire ça représente 2000, 3000 mots, donc ça fait 4, 6 pages, ça dépend 7 pages, ça dépend le nombre de dialogues etc.
Tu leur envoyais 20 pages.
Non, je parce que c'est sur Google Doc, donc en fait c'est le nombre de commentaires et généralement ils faisaient des syncopes. mais au début, c'était beaucoup sur les mots et il y avait beaucoup trop de styles, donc en fait, c'était des retours d'auteurs et après en fait, je leur faisais plus des retours qui étaient effectivement des retours sur la structure en disant ben là en fait je trouve que ça marche moins donc plus des retours d'éditeurs donc j'ai beaucoup grandi aussi là-dessus et en fait c'est ça qui est intéressant dans ce travail collaboratif c'est-à-dire que et même sur Arnaud au début et Karine quand ils lisaient les textes surtout Arnaud il me faisait beaucoup de retours dans ces phrases-là, ça marche pas ce texte-là ce bloc de texte-là que t'as fait il me faisait sauter des paragraphes entiers en me disant ça sert à rien.
Il faut accepter le franc-parler hein, dans ce genre de.
Ouais,
de
mais situation. En fait, c'est vu que moi, en fait, je suis.
C'est du leadership. Hein.
Ouais.
Ouais, mais c'est aussi à un moment donné, c'est moi, je suis quelqu'un d'assez franc et assez direct et parfois maladroit. Et donc en fait, j'essaie de l'être de moins en moins. Mais du coup, en fait, je suis obligé d'accepter que les gens me fassent des retours directs. Voilà. Et puis ça marche bien. Et comme ça, au moins, il n'y a pas d'équivoque. Et quand, par exemple, Arnaud me virait, parce qu'en fait, c'est ça qui est violent sur Google Doc, hein, c'est un paragraphe entier raturé.
Ouais.
Donc du coup, tu te dis, mais tu sais, parfois, il faisait pas forcément de remarques. Moi, j'avais l'habitude avec Thomas et Cécile de tout commenter.
C'est juste mauvais. Il le vire.
Non, mais lui, parce qu'il a pas le temps et c'est tout à fait normal.
Pas l'essentiel.
Ouais, c'est ça. Et en fait. Après je l'appelais pour essayer d'avoir un débrief et qu'il m'explique et je disais mais non mais fais chier avec ça et en fait il avait raison ça servait à rien j'avais fait un paragraphe ou une phrase qui pour me faire plaisir et c'était nul pour l'histoire c'était très bien pour l'ego
enlever le gras quoi
ouais et voilà et donc du coup au fur et à mesure le et c'est ça aussi qui est intéressant dans le faire et faire te permet parce que les cours et la théorie c'est bien mais la pratique y a rien de mieux en tout cas pour l'écriture
on apprend en faisant
je peux vraiment parler pour moi. Et pour ce que je connais, ce qui est super intéressant, c'est que au début, en fait, mes textes étaient vu que ils étaient faits pour être lus, et donc ça se rapprochait un peu de petites nouvelles, enfin de très très courtes nouvelles. Il y avait plein de choses en plus qu'en fait, au fur et à mesure, on a viré pour pouvoir avoir des textes dynamiques et des textes qui sonnent un peu plus, qui se rapprochent de la fiction.
Ouais.
Donc tous les rajouts qui qualifiaient le type de réaction ou ce genre de choses, on le dégage parce qu'en fait la voix peut donner cette intention et ça donne des textes qui sont un peu plus dynamiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ceux qui écoutent les premières histoires qui sont encore disponibles et les nouvelles, elles ont plus rien à voir. Au-delà de, je pense qu'elles sont mieux écrites. C'est la manière dont elles sont écrites et dont les histoires sont racontées n'ont plus rien à voir. Et c'est ça qui est super intéressant. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un succès collectif parce que si Arnaud n'avait pas fait ses retours, si Abel, qui s'occupe aussi de l'enregistrement, parfois fait pas des retours, parce qu'il en fait. Au début, il en faisait pas trop. Maintenant, il a plus peur. C'est hyper intéressant. Quand Karine aussi nous a rejoint, ça a donné une autre voix. Ou quand elle lit des trucs en arrivant, elle dit. Mais je comprends rien. Je fais, ah oui, t'as raison. On change. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand on donne ces textes-là à des illustrateurs et que
ils en donnent une vision différente que vous aviez peut-être pas vue.
C'est ça, et qui enrichit. Moi, je paye pas très cher les illustrateurs parce que j'ai 700€ déjà par mois. Enfin, c'est 700€ par épisode aujourd'hui, à peu près le coût. Peut-être un peu moins.
Pour produire un épisode.
Un épisode qui dure une quinzaine de minutes, sans design sonore. Donc je suis obligé de faire des choix et j'explique. D'ailleurs, quand je suis venu vers le Patate Club. Je disais, voilà, les gars, moi, je peux pas payer de ouf. Ça me fait chier parce que je sais le temps que vous allez y passer. C'est pas du tout représentatif. Mais je suis obligé, en fait, et je peux pas vous payer plus de, généralement, c'est 75€. Ce que j'avais dit au début. Mais même déjà 75€, c'est en fait une illustration sur une cover d'un podcast qui, généralement, est pas regardé. Tu te dis, bon,
oui.
C'est déjà beaucoup d'argent. Et j'essayais d'expliquer la démarche. Tu vois, c'était pas, je vais vous niquer. Non. Et puis, en plus, j'essaye d'être assez fair aussi sur les droits, en disant, voilà, c'est que pour la promotion du podcast et de l'épisode et compagnie. Et si jamais un jour on fait des lithographies ou ce genre de choses, c'est des choses dont je rêverais, on verra. On en reparlera à ce moment-là. Et après, c'est parole contre parole, mais bon, maintenant, c'est aussi, il y a des contrats quand même, et il y a des factures pour ça. Mais je suis assez droit et je pourrais pas me regarder en face si je truande quelqu'un.
Allô, allô, ici le Patate Club.
Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît.
Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous.
Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon.
Ça nous aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout.
Allez, retour à l'épisode. Et si on est illustrateur, illustratrice, auteur, autrice, est-ce qu'on peut te contacter pour te proposer participation.
Aujourd'hui, sur les illustrateurs, j'ai ce qu'il faut sur les 6 prochains mois. J'ai des collabs et je veux continuer en fait
on en parlera des collabs.
Ouais, sur les textes en fait, pourquoi pas.
Okay. Ça passe.
Même si mon programme sur les 6 prochains mois, même les 8 prochains mois, il est bouclé dans ma tête.
Voilà, mais t'es prêt à recevoir des manuscrits et lire quoi.
Oui, oui, si. Mais ouais. Après, il faudrait que j'ouvre une page et que j'explique. À une époque, je le faisais, mais pour l'instant, en fait, il y a des problématiques de contrat, de droit, etc., etc. Et en fait, j'ai déjà ma petite. En fait, moi, j'aime bien être dans une espèce de confort, pas de la routine, mais de dire, ok, j'ai mon équipe, je sais à qui je peux faire confiance. C'est des gens qui me comprennent, qui acceptent en fait. On s'est trouvé et on sait pourquoi est-ce qu'on bosse ensemble.
T'as pas de raison de mettre ça à mal, quoi. Voilà. Mmh.
C'est non. Enfin, c'est surtout aujourd'hui, j'ai une énergie qui est limitée. Et en fait, m'ouvrir à d'autres gens.
Oui,
ça récupère l'énergie, ouais, sûr, bien sûr.
Avec plaisir. Mais en fait, vu que c'est pas tout de suite, voilà, c'est ça en fait qui est particulier. Et l'une de mes raisons de fierté, c'est qu'en fait, finalement, l'équipe. Alors, il y a des gens qui sont partis, notamment certains illustrateurs, parce que ils ont plein de projets. Donc voilà. Mais l'équipe cœur autour de l'audio, en fait, c'est la même depuis des années.
Ça
qui est godin. Et en fait, on a tous envie en fait que le projet dure le plus longtemps possible. On essaye et ils ont tous des agendas qui sont quand même assez denses. Les trois, mon trio magique, donc Abel, Karine et Arnaud. Puis il y a aussi Celsian qui s'occupe de tout ce qui est montage pour le moment. Et voilà, ils sont là. Ou même Léa qui s'occupe du design sonore, elle a un agenda pareil, assez intense. On trouve toujours des solutions et elle trouve toujours des solutions et c'est godin. Et c'est ça en fait qui me rend fier au global, c'est moins les chiffres. Alors bien évidemment, c'est super cool.
Là, ça justifie le fait qu'il y a une équipe et que ça tourne et voilà.
Oui, voilà. Après, aller chercher l'argent, c'est compliqué. Ouais. Mais
justement, j'aimerais bien aller dans cette direction-là, compliquée. T'en touchais un mot un tout petit peu tout à l'heure en parlant de reconnaissance, mais je me souviens d'une conversation qu'on a eue par le passé où tu disais qu'il y avait plein de personnes qui ont des rêves et que tu leur demandais genre, oui, mais qu'est-ce que tu fais pour ? Ben, je fais ci, je fais ça. Genre, non, mais est-ce que t'as travaillé pour ? Est-ce que t'as fait des sacrifices pour y arriver ? Et que pour qu'un projet arrive, pour qu'un projet fonctionne, il faut faire des sacrifices. Et du coup, j'avais envie de te demander, c'est quoi les sacrifices que t'as fait pour ce projet ?
Beaucoup de temps. Ouais. J'ai été très très égoïste. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même, des week-ends, des semaines entières, des vacances que j'aurais dû passer avec les enfants, que j'ai passé sur le projet. L'été dernier, je suis pas parti en vacances avec eux.
Tes enfants qui sont tes premiers lecteurs ?
Pas vraiment mes premiers lecteurs. Non, ni l'un ni l'autre maintenant aujourd'hui.
Mais au début c'était le cas.
Au début, ils lisaient un petit peu, mais c'était pas tant que ça. En fait, j'ai du mal à vouloir trop les embarquer là-dedans. Parce que en fait, ça pourrait. Hein. Je vais essayer là je demande souvent son avis à Alice et puis Martin. Je lui fais écouter les histoires parce qu'il aime bien lire, mais il aime surtout écouter les histoires. Alice est plus dans la lecture, mais du coup, j'ai perdu le fil de
ma parole.
C'était le sacrifice.
Beaucoup de temps, quoi.
Ouais.
C'était beaucoup de temps en fait où j'étais pas forcément présent, j'ai franchi des lignes rouges moi de fatigue assez importante. Mais en fait, c'était une question de faut que je devienne meilleur, faut que je m'améliore. Donc en fait, je prenais des projets qui étaient beaucoup trop gros pour moi.
Ouais.
Quand je me lance en 2019 dans la rédaction d'un calendrier de l'Avent, d'une histoire calendrier de l'Avent polyphonique, donc avec plusieurs personnages qui vont devenir des narrateurs différents et compagnie, etc. Et donc créer 24 une histoire de 24 épisodes avec 5 chapitres, donc avec des narrateurs différents de 3 minutes,
jours, quoi,
ouais. Donc avec des cliffhangers, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver?
Ouais, bien sûr.
Et au final, l'histoire, quand je l'écoute, j'en suis super content. Aujourd'hui, avec mon regard, je me dis, c'est dommage parce qu'en fait, j'ai réussi un personnage sur les 5, de mon point de vue. Parce qu'il est bien caractérisé, on comprend tout. Il y en a 2 qui sont vraiment très faibles. D'ailleurs, il y en a que 4. Oui, c'est ça. Il y en a que 4. Il y en a pas 5. Le 5e, c'est le méchant. Donc sur les personnages principaux, il y en a deux qui ont des missions claires. Il y en a une qui est réellement bien caractérisée. Et en fait, si je devais la réécrire, je la réécrirais probablement un peu différemment.
Pas grave, tu l'as fait.
Oui, je l'ai fait. Et en fait, ce qui est génial, c'est j'en suis sorti. Enfin, j'ai l'impression, c'est Dragon Ball. Hein, c'est ce qui tue pas te rend plus fort. C'est pas du tout de Toriyama, mais je veux dire, c'est ça. C'est les Super Saiyans, ils crèvent pas et du coup, ils deviennent plus forts après.
Ouais.
En fait, j'ai franchi cette étape. J'avais jamais écrit de série. J'avais jamais fait un truc long. Parce que
là,
en fait,
c'était fait.
Voilà, et au début, tu vois, peut-être un blocage que je me faisais, c'est que je me dis, je ne peux faire que des petites choses. Je commence. Donc en fait, je vais faire du court. Je suis incapable de faire du long et de me projeter. Pourquoi ? Parce que j'ai pas de structure, machin, tout ça et compagnie. Et puis ça me paraissait beaucoup trop grand. Et écrire des petites histoires, ça m'allait. Et donc mes histoires, au début, elles faisaient entre 7 et 10 minutes. Maintenant, elles en font le double. Voire, notamment un de mes héros, mon héros principal que j'adore, qui s'appelle Zélie, qu'on a co-créé avec les enfants, qui est une espionne en fait, qui résout des mystères. Et ben en fait, ce qui est assez guenin, c'est que maintenant en fait, je suis incapable d'écrire des histoires qui sont cadrées dans mon qui font 12 minutes, généralement elles font plutôt 15 ou 20 minutes les histoires de Zélie.
Ah oui oui.
Parce que je veux développer des choses, parce que je veux m'amuser avec, etc. Ouais. Etc.
Bah donc du coup, t'as vraiment été dans le dur, t'as crafté,
ouais.
Tu visais des petits trucs, t'as fait des sacrifices, t'as passé beaucoup d'heures, etc. Et puis après, au final, maintenant, t'es à l'aise de faire des trucs plus longs.
Oui, c'est ça. Et puis, je suis aussi content des histoires, content de ma progression. Je vois tout ce que je dois encore améliorer. Et c'est ça qui est super intéressant. Moi, je kiffe, en fait, quand je lis un bouquin, de me dire, punaise, mais c'est pour ça, en fait, que je suis pas content de mes histoires, dans le fond. C'est pour ça, en fait, que là, j'ai compris un truc avec Zélie. Je suis en train aussi de développer un jeu en ce moment pour apprendre aux enfants à écrire des histoires. Je vais bientôt le tester et tout. Je suis trop excité de faire ça. J'ai aussi ultra flippé. Mais du coup, ce qui est super cool, c'est qu'en fait, en écrivant ma méta, je me fais, mais finesse, mais t'as pas du tout fait ça pour ce héros. Donc du coup, c'est pour ça que ça marche pas. Et pareil, des petites révélations comme ça, soit quand j'écris ma méthode ou quand je lis, en l'occurrence pour Zélie, je me suis dit, mais putain, mais oui.
Que tu dis, j'ai pas fait ça.
Bah, par exemple, il me manquait réellement une mission où j'avais pas creusé des qu'est-ce qui lui fait peur. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est les failles des personnages.
Oui, en fait, c'est les ingrédients que tu mets dans l'histoire. En fait, il y a des techniques hein, pour créer des histoires pas efficaces, qui est des choses qu'il faut pas louper parce que c'est hyper important pour emmener le lecteur. Après, quand tu les maîtrises, bah, tu peux t'en affranchir. Mais quand tu les maîtrises pas, si t'as pas ces ingrédients-là, bah, l'histoire, elle est plate et il y a pas les rebondissements, il y a pas le rythme, les cliffhangers, comme tu dis.
Ouais, et puis, enfin, les péripéties, etc. Ouais. Mais c'est surtout, en fait, quand tu crées des, parce que les ingrédients, en fait, finalement, tu peux les avoir assez vite, mais après, c'est comment avoir des bons ingrédients, des ingrédients de qualité. Et les ingrédients de qualité, il faut les creuser. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, je continue, un autre point, en fait, et point de bascule hyper important, et c'est pour ça que, enfin, ma vie est quand même folle. Vraiment, hein, j'ai une étoile, un truc, je sais pas. Enfin, il y a un truc en tout cas qui se passe plutôt bien.
Lui aussi, une étoile.
On en parlait.
En termes d'alignement, c'est plutôt pas mal. C'est que le Covid a été fou pour moi, puisque je suis passé de 100 000 à 1 demi-million d'écoutes.
Oui, les gens étaient coincés chez eux avec leurs enfants, donc bon.
Ouais, puis j'avais partagé aussi une liste de contenus gratuits, liste ultime pour occuper les enfants avec des contenus gratuits. Voilà, et donc ça a eu une aura incroyable, mais surtout en fait du coup ça plus. Ma série folle, enfin mon calendrier de l'avant, septembre en fait il y a Cybèle qui est une plateforme de fiction et de contenu audio en fait, pas que de fiction, m'appelle pour me dire coucou, on aimerait bien que tu écrives une histoire, enfin un calendrier de l'avant, que tu nous fasses un calendrier de l'avant pour nous. J'avais jamais produit pour un tiers, enfin j'avais rapidement produit quelque chose pour Paradiso, pour Amazon pendant le Covid, enfin pour Audible en l'occurrence, c'était pas pour Amazon, mais j'avais jamais produit un truc aussi ambitieux.
Et là tu leur as dit oui sans problème.
Non, j'ai dit faudra avoir le budget parce que ça va demander quand même de l'argent, tu vois, parce que en fait là c'était 24 épisodes de 5 minutes avec une exigence et une attente en termes de design sonore et d'ambiance sonore qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait sur mon calendrier avant, puisque c'était juste des tapis qu'on avait fait. Ou des nappes, tu vois. Donc c'était des tout petits trucs, il y avait pas forcément beaucoup de, enfin il y avait pas de bruitage. Et là, il fallait du bruitage, il fallait de la musique, il fallait des ambiances. J'avais jamais fait ça. Et puis surtout en fait, j'avais jamais transmis mes textes à quelqu'un, enfin, je l'avais fait une fois pour Paradiso, mais c'était dans un contexte spécial, donc il y avait pas beaucoup de retours. Il a fallu que j'écrive des scripts, que je les envoie, que je les fasse valider.
Ouais, voilà.
Une espèce de tension, tu vois, qui se crée en toi, en te disant, putain, est-ce que ça va marcher?
T'es indépendant, tu connais.
Et en fait, ce qui était godin, c'est que j'ai eu énormément, enfin, Karine, j'arrête pas de la remercier à chaque fois qu'on se parle, parce que, en fait, elle m'a fait une confiance de ouf. Enfin, elle est allée chercher un mec, sorti de nulle part, donc là aussi c'est de la reconnaissance, mais tu t'en rends compte après. Elle est venue chercher un mec qui était en production ce garage-ish, voilà, ou pro-ish.
Ouais, c'est bien dit, garage-ish.
Voilà, c'est vraiment. Et du coup, elle me dit, ok, vas-y, viens. Non, mais tu vas produire. Hein? Mais c'est produire de quoi? Je sais pas, moi, j'ai jamais fait ça. Et c'est là, par exemple, que j'ai appris qu'il fallait que j'ai une assurance. Truc tout con, quoi. Non, mais ça serait bien que t'aies une assurance professionnelle, une ERC et tout, mec qui est quand même un peu con. C'est effectivement important parce que si jamais il y a un problème, machin, avec tes... Voilà, donc elle m'a accompagné, puis les gens du légal aussi m'ont accompagné, Olivier m'a accompagné, mais sur...
Est-ce que parfois t'as peur?
Parce que tous les jours.
Non, mais parce que ce que quand je t'écoute, c'est quand même des gros trucs, et tu te dis que il y a aussi des choses que t'as jamais fait, des choses que t'as pas d'expérience, des choses où t'étais pas au courant qu'il fallait faire ci, faire ça. Je me mets à la place de quelqu'un d'autre pour se dire non, moi je sais pas faire ça, moi ma spécialité c'est ça, je vais pas accepter ça. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est souvent une sorte de oui, allez, on y va. Et
enfin, t'acceptes pas non plus n'importe quoi.
Non, mais il y a des projets ambitieux qui t'as envie de faire des projets ambitieux, et des projets ambitieux qui viennent comme toi, comme pour Cybèle, etc. Et tu te dis genre, allez.
Il y a une part de flip, ouais, quand même, qui doit arriver à un moment.
En fait, je sais pas si c'est de la flip. Il y a peut-être de l'appréhension, mais en fait, le truc, quand le projet arrive, je fais go, on y va. Vous êtes d'accord? Je suis pas tout seul.
Oui.
Non, mais en fait, c'est
ouais, ça. T'engages la team avec toi.
Je pense qu'ils se foutraient de ma gueule parce que effectivement, je suis un peu mièvre et bisounours. Mais c'est encore une fois, Abel, Karine, Arnaud, me donnent une force. Mais vraiment, ils sont là une fois par mois. Hein.
Power Rangers.
Non, mais c'est ouais, exactement, c'est ça. Et je sais pas quel ranger je suis, mais quelle couleur j'ai, mais
t'es le rouge.
Non.
Si si, t'es
non,
le rouge.
Parce que le rouge généralement c'est le leader, c'est et puis il est très très fort. Mais je pense que je suis une couleur chelou.
T'es pas le leader de ton projet?
Si, non, bien sûr. non, mais bien sûr. Non, mais c'est pas ça. C'est
donc t'es le rouge.
Ouais.
Allez, accepte-le, quoi.
Mais j'aime pas le T-Rex, moi.
Ah ben... Non, mais c'est pas grave, ça.
Moi, je veux pas le T-Rex. Je suis plus mammouth.
Bah, t'es leader, donc tu peux changer, voilà.
Je prends le mammouth, alors. Voilà. Le mammouth est rouge.
C'est toi qui décide.
Normalement, c'est Ranger Noir qui a le mammouth.
Tant pis pour lui.
Mais du coup, hop, là, pardon. Je me suis pris le pied dans le, fil. Ils me donnent beaucoup de force. Et en fait, s'ils sont partants, que je sais qu'ils seront dispo, en fait, je sais que ça va bien se passer.
Ça résout une partie du problème. Hein.
Et en fait, je peux pas avoir peur. Après, j'ai de l'appréhension. C'est ce que je vais réussir. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va marcher? Bon, bah, try. Et je suis mort, mais à peu près tous les jours en écrivant cette série. Parce que, donc encore une fois, beaucoup de chance, parce que d'abord, on écrit un pitch, elles sont d'accord, elles valident, youpi. Ensuite, j'écris une espèce de séquencier macro de toute la série, épisode par épisode, c'est super. Mais en fait, le truc, quand on écrit, quand on construit une histoire, c'est qu'en fait, on se rend compte, par exemple, que la fin, il faut la changer, parce qu'en fait, ce qu'on avait imaginé, ça marche pas bien. Et elles ont accepté tout ça, en fait. Le seul retour qu'elles m'ont fait, et c'est là où tu vois en fait que t'es mais j'avais beaucoup d'appréhension et elles l'ont compris, donc c'est pour ça que c'était dingue et que j'ai de la chance. Après, la chance se provoque, etc., etc., on peut en débattre, mais j'ai quand même je suis verni, parce que, et je tombe sur des gens qui sont bienveillants, parce qu'à un moment donné, sur un script, elle m'avait dit un équilibre entre narration et texte, où il vaut mieux de la 30% de narration et dialogue, 30% de narration et plutôt 40% max, et surtout plutôt 70% de dialogue. C'est important pour nous. Je fais OK. J'arrive à le faire sur tous. Et sur la fin, en fait, vu que j'étais pas à l'aise avec ma fin, j'étais plus parti sur de la narration. Donc j'étais revenu dans ma zone de confort, parce que j'avais toujours eu beaucoup de mal.
Ouais, t'étais sorti du cahier des charges pour venir dans ta zone de confort,
ouais,
à ce moment-là.
Parce que les dialogues, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est un métier aujourd'hui, hein, le dialoguiste. Et du coup, je suis plus fort en narration. Enfin, plus fort. Encore. Bof.
Plus à l'aise.
Plus à l'aise. Et du coup, je fais un épisode qui convient. Elles m'en font un tour en disant non, mais ça ne va pas et tout. Et je me vois réagir, mais tu sais, parce que j'avais peur en fait. Et puis il y avait des délais. Et je me disais, mais en fait, je suis tellement lessivé, et j'étais sur au 18e jour d'écriture et non-stop, hein, avec des amplitudes au secours. Et puis en plus, à côté de ça, j'écrivais pour mes histoires. Pour mon podcast.
Tant qu'à faire.
Donc ouais, bah, histoire de se rajouter des trucs compliqués. Et donc du coup, j'y arrivais plus, quoi. Et en fait, elle a compris, elle a super bien géré. Encore une fois, c'est une très très grande professionnelle et quelqu'un de très très bon conseil. Du coup, elle m'a éclairé et j'ai pu comprendre. Et puis après, on est passé sur la post-prod, etc. Mais là aussi, coup de bol énorme. Pas de test de voix avant. Une confiance ultime,
ouais,
quoi.
Ouais. Mais là, la confiance, ça donne des ailes, hein.
Oui, mais ce qui est ouf, en fait, c'est que ça me faisait aussi peur. Et puis elle me fait un retour en disant ah non, je suis désolé, cette voix-là, tout nous va, mais cette voix-là, ça va pas. Faut retourner toutes les voix d'un personnage.
Ouais, c'est chaud.
C'est chaud. Arnaud dit OK, d'accord, je viens. Mais enfin, et donc en fait, quand on a une équipe comme ça, quand
tu
on
peux
a...
compter sur
Kerker pour
non non,
ton
mais
équipe.
Mais vraiment, enfin, c'est même plus que ça. Enfin, c'est des gens qui sont exceptionnels et c'est ouf. Et en fait, je me dis putain, mais enfin, sans eux. Enfin, ce podcast n'en serait pas là.
C'est comme la communauté de l'anneau, quoi. C'est
Ouais, non, mais c'est les Power Rangers, c'est pareil. Mais vraiment, et c'est des gens. Enfin, c'est grâce à eux aujourd'hui que le podcast en est là et que, en tant qu'auteur, parce que là, je parle en tant que producteur,
oui, bien sûr, ouais.
Mais en tant qu'auteur, que j'ai réussi. C'est aussi grâce à moi. Je taffe, j'y vais. J'ai peur de rien. J'essaye de m'améliorer. J'ai envie. Il y a pas une semaine où j'écris pas. Mais par contre, il y a plusieurs jours où je fais des pauses parce qu'en fait, il faut pas que j'écrive. J'ai mes sas de décompression entre. C'est ça aussi qui est compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté d'écrire autant d'histoires, parce que d'un point de vue imagination, ça va. C'est surtout en fait que je me suis rendu compte que globalement, pour écrire une histoire de 15 minutes, il me faut 2 jours à peu près, une journée et demie maintenant. Mais en fait, j'ai compris aussi qu'après avoir écrit une histoire, quelle qu'elle soit, je suis obligé d'avoir un sas de décompression.
Bah oui.
Mais en fait, c'était, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je disais, ouais, je peux enchaîner. Non, en fait, je peux pas. Je suis obligé, en fait, pendant deux jours de rien faire.
Mais ton ça, c'est deux jours, hein, c'est ça?
Ouais, c'est un, deux jours. Ouais, parfois, ouais. Ça peut être plus. Ça dépend.
Faut un break, quoi.
Mais je suis obligé de breaker.
On en parle parfois ensemble de l'importance de l'oisiveté. Que parfois, on a l'impression qu'on est tout le temps dans l'action. Mais c'est important de détendre le muscle.
Mais c'est exactement comme le corps, en fait, et le cerveau. C'est-à-dire qu'on dort la nuit, pour rien, c'est pour recharger les batteries, parce que si on enchaîne, c'est très difficile. D'ailleurs, je suis absolument admiratif des médecins urgentistes, par exemple, qui doivent rester des heures de dingue et enchaîner et d'être prêts à opérer des gens. Enfin, je trouve ça complètement fou, parce que ton cerveau, il est attaqué, quoi.
Mais pour moi, l'oisiveté, c'est un entraînement. C'est un art aussi de savoir
s'arrêter.
Go time. Et puis là, c'est genre maintenant, je m'arrête.
Ouais, parce qu'en fait, c'est une sorte de quand t'es oisif, tu éponges des choses sans te
remplir pour tes histoires.
C'est un déchargement. Ça.
Ouais, et moi c'est vraiment j'ai compris ça, mais c'est au fur et à mesure. Au début je me mettais un peu de pression en disant ah, et là en fait j'ai compris non mais en fait écris pas, ou sinon là ce que j'essaye de faire un peu plus c'est d'essayer de réellement me rediscipliner pour être capable en fait d'envoyer des histoires assez vite et assez fort. C'est-à-dire que je vais d'abord, je remplis mes fiches en fait, les fiches de mes méthodes, je les remplis rapidement, parce que je peux le faire un peu plus rapidement maintenant. Et puis après, je me mets à construire mon histoire, justement avec les fameuses fiches, les fameux ingrédients, etc. C'est pas pour vous le prévendre, hein, vous inquiétez pas les auditeurs, et les auditrices.
C'est pour ton atelier d'écriture.
C'est ça. Ouais. Mais et puis même mon jeu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, cette méthode-là, en fait, elle est hyper utile parce qu'elle me fait gagner du temps. Et elle va m'en faire gagner de plus en plus. Et d'ailleurs, je vais avoir en 2022, je vais avoir deux grosses séries.
Ouais.
Une série cet été qui va être la troisième saison de ma série estivale qui s'appelle Un été incroyable. Et puis je vais essayer en octobre, novembre, de publier une autre histoire sur un nouvel univers que je n'arrivais pas à craquer. Et en fait, je vais essayer. Là aussi, pareil.
Excitation maximale.
Alors je suis pas excité, mais par contre c'est un vrai gros défi. Et si j'arrive à faire avec Un été incroyable et mon autre série ce que je veux faire, je serais très content j'aurais franchi une nouvelle marche.
Alors j'avais envie d'aborder un sujet là, justement tu me parles de t'adresser aux enfants. Et on sait tous qu'en fait les histoires, c'est les histoires façonnent l'histoire de l'humanité. Ça nous change, ça nous inspire, ça nous met en mouvement. Parfois, ça nous permet de voir les choses d'une manière différente ou d'aborder une autre personne de manière différente. En parlant de s'adresser aux enfants, j'aurais voulu savoir quelle responsabilité tu te ressens vis-à-vis de ton audience.
De pas les prendre pour des enfants.
Mm-hmm.
De les prendre pour des gens, en fait. Donc, de pas les prendre pour des abrutis, de les respecter, en fait. De rester droit, d'être honnête, d'être transparent.
Quelque part tu les as aussi amenés dans la team, puisque tu les fais participer aux histoires comme Zélie.
Ouais.
Donc c'est aussi une partie de la team.
Ouais.
Dans ton public.
En fait c'est oui, donc, tout à fait, mais là ce que je dois
parce
à mon audience,
il y a tellement de gens qui t'écoutent, tellement d'enfants qui t'écoutent, ça doit parfois je sais pas mettre la pression ou...
Non, jamais.
Non, okay.
non, vraiment pas, parce qu'en fait, moi, je me concentre sur mes histoires et bien évidemment, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui m'écoutent. Et pourquoi, en fait? C'est pas que pour me nourrir, c'est que moi, aujourd'hui, je suis dans une logique de survie financière. Et donc, à un moment donné, j'ai besoin de trouver ce point d'équilibre. Donc, est-ce que c'est plus d'enfants? Je sais pas, en fait. Est-ce que c'est essayer de voir comment, avec mon audience aujourd'hui déjà et mon public, je peux réussir à construire un écosystème financier qui fera que toutes les personnes avec lesquelles je collabore sont justement rémunérées? Et que moi, à un moment donné, je puisse gagner aussi un peu de thunes, parce que je fais pas ça pour l'argent. Mais bon, quand en fait on passe toutes ces soirées et tous les week-ends où on a pas ses enfants à travailler, plus ces moments de temps libre qui devraient normalement te permettre de respirer, à penser à ton projet, j'estime que ce serait normal de gagner un peu d'argent.
Voilà.
Et donc, parce que le sens y a, ça c'est pas du tout de souci, mais à un moment donné, c'est intéressant quand même de gagner de l'argent. Et donc, c'est un peu la réflexion que j'ai aujourd'hui et à laquelle je suis arrivé, c'est-à-dire que à un moment donné, je me suis dit, l'important c'est le volume d'audience. Non. en fait. Pas dans mon secteur en plus, parce que je suis dans la jeunesse.
C'est de honorer ton audience.
Oui,
enfants.
Et puis c'est d'essayer de construire quelque chose avec eux. Donc c'est à la
oui,
fois
d'où les séries.
C'est voilà les séries que je veux essayer de créer.
Excuse-moi, juste parce que c'est un sujet que j'aimerais creuser. La balle que je t'ai envoyée juste avant, c'était aussi quel engagement pour les petites histoires par rapport à au sujet de société ou par exemple à l'actualité un peu morose de ces dernières années, vu qu'il y a toutes ces petites oreilles qui écoutent les petites histoires.
Je suis décoré de l'actualité. C'est-à-dire que j'ai pas parlé du coronavirus.
Non, mais
tu parlais de l'actualité. En fait, je pense que c'est inconscient. C'est-à-dire que oui, j'ai envie de parler du respect des autres. Oui, j'ai envie de parler de l'importance de la bienveillance. Oui, j'ai envie d'expliquer aux enfants que résoudre un conflit ne se fait pas que par la violence. Parfois, quand un méchant est un vrai gros méchant, peut-être qu'il peut disparaître. Et il faut qu'il paye pour ses crimes. Alors, ça ne veut pas dire forcément en mourant. Peut-être qu'il est envoyé aux oubliettes ou ce genre de choses. Mais voilà, pour moi c'est ça en fait qui est le plus important. Je suis là pour divertir et il faut que je divertisse. Effectivement, c'est pour ça que je disais au début et c'est vraiment ma réponse première, c'est ce que je dois à mes auditeurs aujourd'hui et mes auditrices et qui d'ailleurs que ce soit les parents ou les enfants, c'est du respect. C'est du respect, de la transparence. Et après effectivement en termes de valeurs, c'est vraiment inconscient. J'ai pas de message. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir un message principal à faire passer. Mais par exemple, je me posais la question, j'ai été très marqué dernièrement par le film de Netflix Don't Look Up. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un vrai faux happy end pour moi. Finit mal. Puisque à la fin, il se passe quelque chose.
Voilà, on va pas
sachant que dans la bande annonce, on voit une météorite, mais bon, voilà.
Détailler un peu.
On va pas dire, mais c'est plutôt bien résumé, voilà.
Et donc, c'est rapport à tout ce qui est en train de se passer dans notre société. Et je me suis demandé, est-ce qu'à un moment donné, on est en train d'y réfléchir, on va pas faire quelque chose, une histoire qui se finit pas bien.
Super intéressant.
Une histoire où ni le héros ni Don't Look Up.
Tout le monde crève.
Il y a les gentils et les méchants et en fait personne ne gagne.
Ouais.
Et c'est un peu ça le truc.
Oui, d'ailleurs les gentils n'ont pas non plus le beau rôle, quoi, on va dire. Enfin, ils ont pas toujours le beau rôle non plus.
Il est génial. Si vous ne l'avez pas vu, allez.
On ne peut que vous le recommander.
Ouais. Voilà. Et ne le piratez pas s'il vous plaît. Empruntez un compte. C'est pas bien de pirater.
Le message est passé.
J'ai du mal avec le piratage, même si je l'ai fait. Hein, mais aujourd'hui, je ne le fais plus.
D'accord. Tu vois, t'as un message.
J'en ai. Mais voilà, j'ai pas envie d'embêter les enfants avec des morales. Je suis là pour raconter des histoires.
Ouais.
Entertainment.
Ouais, encore une fois, je suis là pour divertir.
C'est vrai que face à la morosité, par exemple avec le corona, tu le mentionnais, ou bien les confinements, etc. T'as amené une respiration, du divertissement.
Ouais, voilà, des bons moments.
Ouais. Mais il y a quand même des messages.
C'est hyper précieux.
Il y a quand même des messages et tout, mais en fait, c'est pas le vecteur principal. Ouais. Thomas est beaucoup plus fort que moi pour créer des histoires où la structure. Souvent, peut y avoir un message. Il fait aussi des histoires, en fait. Oui, il y a pas de morale en tant que telle.
Mais des fois, les aventures se suffisent en elles-mêmes.
Oui, parce que c'est des histoires.
Voilà.
Je sais que t'es un gros consommateur de dessins animés, d'animés, et je me souviens que tu m'avais parlé à l'époque de plusieurs dessins animés justement où il y a des valeurs d'inclusivité, de diversité,
oui,
etc. C'est pas la morale de l'histoire, mais ça fait partie intégrante de l'histoire et c'est juste une évidence, quoi.
C'est ça, Steven Universe, qui est aussi un monument.
C'est un tatouage de.
Exactement. il y a ça, et c'est pour ça qu'il est si puissant, ce dessin animé. J'aimerais bien, peut-être, c'est juste que je me pose pas ces questions et je pense qu'effectivement aller vers plus d'inclusion, d'inclusivité et compagnie, etc. Parler de plein de thèmes différents. Le problème c'est que j'ai pas une série, j'ai plein d'histoires. Mais on a fait une série sur la transidentité, enfin une histoire sur la transidentité, parce qu'on a reçu.
C'est quelle histoire ?
Ça s'appelle Tata Clara.
Okay.
Elle s'appelle Tata Clara.
Sur les petites histoires, hein.
C'est pas ouais, tout ouais. à fait. Qui a été écrite par Cécile, parce qu'on a reçu un témoignage d'une maman qui nous expliquait en fait que traiter de cette thématique-là, c'est pas encore, on trouve pas beaucoup de choses. Et si on pouvait faire une histoire là-dessus, ça aurait pu l'intéresser. Donc on a essayé de faire une histoire qui, à mon sens, est pas mal, mais aurait pu être beaucoup mieux. Et tant mieux, tu vois, c'est parce qu'on l'a produite, on l'a écoutée, et puis après, voilà, on l'écoute et on se dit, ah putain, peut-être qu'on aurait pu améliorer tel truc et tel truc. Mmh. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va la refaire tout de suite. Mais voilà, c'est ça en fait qui est important. Moi, je suis pas drivé par un message. Je suis plus drivé par les histoires. Je ne dis pas qu'il faut pas transmettre de messages et de valeurs dans les histoires. Mmh. Encore une fois, il y a mes valeurs, il y a des trucs hein, auxquels je crois. Mais c'est plus, ouais. Je me pose beaucoup plus la question, notamment sur un état incroyable, où je veux parler d'un truc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de te dire, quand tu veux créer des histoires, ça va parler de quoi vraiment dans le fond. Mmh. Voilà. Et en fait, c'est ça qui va intéresser demain des prods, des éditeurs. C'est-à-dire, ok, ils parlent de quoi? Et c'est hyper intéressant. J'avais parlé donc de ma série d'octobre où je disais ça va parler des cauchemars. Et genre, j'ai parlé à une éditrice de cette histoire. Elle m'a dit, c'est pas du tout de ça dont tu vas parler en fait. C'est faux. C'est pas ça. Tu vas parler des peurs. Ah ouais. C'est vrai.
Ah oui, c'est un angle. Ouais, ouais.
Ça angle un tout petit peu différemment.
Ouais.
Et donc c'est, et en fait, et puis dans le fond elle a raison dans son analyse, donc c'est hyper intéressant. Voilà, je sais de quoi, mais aujourd'hui dans les productions on va dire mensuelles des petites histoires, c'est pas du tout ma manière de faire.
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
Et quand je demande là il y a deux nouvelles autrices qui vont revenir, c'est Sibyline et Véro en 2022, et Véro Cazot, elles vont revenir. Je sais qu'elles vont pas me présenter les histoires en disant je parlais de telle valeur ou ce genre. Ouais. Véro un peu plus, mais Sibyline, quand elle m'a présenté son histoire, elle m'a dit voilà, je vais me demander une histoire légère parce que c'est ce que je voulais, c'est Sibyline.
C'est
formidable.
C'est la passion de l'histoire, de l'art de raconter des histoires plus que la morale. C'est pas la fin justifie les moyens, c'est tu respectes ton craft, l'art de raconter des histoires avant tout.
C'est ça. Mais après Sibyline aussi, elle est très forte aussi pour elle a fait un nombre incroyable de BD et dont une BD que j'adore, le trop grand vide d'Alphonse Tabouret et qui est magnifique, enfin le nombre de messages qu'il y a dedans, enfin c'est même le message général qui est véhiculé est incroyable. Donc ça veut pas dire encore une fois ou Véro ou encore une fois Thomas et puis tant d'autres gens ils savent écrire des, enfin ils savent de quoi ils vont parler probablement plus que moi. Souvent c'est dire non mais je vais raconter l'histoire d'une enfant qui va être une apprentie espionne, voilà.
Et puis tu développes.
Mais après, et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et quand j'expliquais sur, j'ai réalisé à quel point en fait c'était intéressant de se poser des questions et d'autres questions sur les personnages et certains ingrédients ou sur ce qu'on voulait faire, parce que ça donne encore plus de fond. Et moi, c'est ma mission en fait sur 2022. C'est, je veux créer des histoires qui ont du fond et j'ambitionne à mon échelle personnelle, donc c'est une toute petite échelle, de faire vraiment une histoire qui va délivrer un message assez fort sur un état incroyable et sur aussi le fond de même si ça va surtout être une saga épique avec beaucoup de blagues, enfin j'espère, sur mon histoire d'automne.
On a hâte de découvrir ça.
Ouais, complètement.
On aurait une petite demande aussi à te formuler. En fait, il y a un nouvel ingrédient dans cette saison 4.
Ouais.
C'est la question perdue d'avance.
La question perdue d'avance, d'accord.
Voilà.
Est-elle perdue d'avance?
Voilà, on va voir. Mm-hmm. Mathieu, Laurent et moi, on aimerait savoir si on pouvait participer à un enregistrement des petites histoires. Prêter notre voix.
C'est un truc qui peut tout à fait se faire.
Cool. Youhou.
Je prépare déjà mes meilleures voix.
Voilà, il est très très bon.
Tout je peux faire les méchants.
cool. Non, mais ce serait hyper cool. Voilà.
Faut qu'on s'organise ça, mais je pense que c'est tout à fait jouable.
Trop trop cool.
Super canon. Voilà. Merci Mathieu.
Et pour terminer, on a notre fameuse boîte à boxons.
Et oui, la boîte à boxons, il faut la sortir. Elle est là, elle approche.
Elle est là, elle est là.
Elle est
belle.
Elle avance vers Mathieu parce que oui, aujourd'hui on n'est pas filmé, on est juste en audio. Et Mathieu, je te présente la boîte à boxons.
C'est une boîte qui s'ouvre.
C'est une boîte qui s'ouvre et dedans, il y a des petites questions. Chaque invité de Sens Créatif tire une de ces fameuses questions. Il y a des questions qui portent sur la créativité, des questions qui portent sur la transcendance et des questions qui portent sur le chaos. Donc tu vas tirer une petite carte. Il y en a 21 au départ
léger.
Et à chaque fois, elles disparaissent pour toujours.
Elle t'appartient.
Et voilà, la question est tirée. Et c'est une question de quelle couleur?
Sens Créatif.
C'est vrai. Donc il faut l'ouvrir.
Ah oui.
Et il y a une petite pastille.
Vert.
C'est une pastille verte. En tout cas, c'est la transcendance.
Laurent, il me fait rire à chaque fois.
Qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Eh ben c'est génial.
C'est une belle note de fin ça.
En 2022, qu'est-ce qui te donne de l'espoir?
Elle est tombée à pic.
Raconteur d'histoire, donne-le. Qu'est-ce qui...
Ah putain, c'est vraiment une question compliquée.
Peut-être pas en fait.
Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est mes gosses et mes enfants. Pardon, ils me mouflaient. Et mais non, le ouais, il y en a plein. Et qui en fait ont une vraie grosse ouverture d'esprit et j'ai l'impression que au-delà au demeurant de tout ce qui est TikTok et compagnie, de toute la manière dont on peut les traiter, je sais pas, il y a plein de solutions qui peuvent venir d'eux parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous sur plein de choses, beaucoup plus ouverts. Après il faut qu'on les guide sur plein de choses. Mais voilà, c'est ça qui me donne de l'espoir. Je me dis que c'est tout n'est pas tout perdu, même si franchement l'horizon il est pas ouf. Ouais, j'ai bonne. En fait, c'est eux qui me donnent de l'espoir et qui me donnent envie d'avancer en fait dans la bonne direction et de rien lâcher en fait. Parce que pour moi c'est ça l'espoir. Enfin c'est peut-être je trouve qu'il y a une notion aussi dans l'espoir qui est un peu chelou, c'est que en fait c'est t'espères que quelque chose se fasse, bah non, en fait, fais-le. Juste fais-le. Mmh. Pour moi, c'est et donc si on veut pas se retrouver dans un monde un peu pourri, bah il y a plein de petites choses à faire. Et ouais, non les.
En vrai, c'est une boucle dans le sens où tu dis c'est tes enfants qui te donnent de l'espoir et tu crées des histoires pour les enfants qui sont la prochaine génération et qui c'est un cercle vertueux. Tu investis les enfants et c'est eux qui te donnent de l'espoir.
Ouais. Alors c'est d'abord les miens, mais effectivement les enfants d'une manière
générale. Oui,
les tiens
d'abord.
Mais non, mais c'est ouais. Et là du coup tu me donnes une espèce de pression et une mission par rapport au podcast que j'avais pas forcément.
Ah ben voilà, c'est gratuit.
Allez, les citoyens de demain. Écoutez les petites histoires.
Merci Sens Créatif.
Non, mais
je vais devenir dépressif.
Non, mais tu vois c'est genre bon, bref.
Non, mais je comprends tout à fait, je te taquine. Ouais. Mais ouais, je le voyais pas comme ça, mais parce que je pense que j'ai une vision plus humble, enfin même si je suis
oui, mais
bon
t'as
fait
pas,
fierté
t'as pas la responsabilité de
j'ai pas l'impression enfin
mais
j'ai...
tu apportes quelque chose quand même
sans doute
anyway
ouais et puis bah je me dis parce que c'est ce qu'on me dit en fait c'est que si effectivement j'arrive à donner à planter une ou deux graines et notamment dans cette envie de partager des histoires de manière enthousiaste à un maximum de gens pour les faire kiffer en fait qui prennent du plaisir les faire voyager les faire décompresser ou ce genre de choses bah c'est déjà énorme. Mais ouais, vraiment, le côté espoir, ouais, c'est mes enfants. Et puis, c'est aussi notre capacité à se réveiller et à changer les choses de manière radicale. Enfin, même si le mot radical fait toujours un peu peur. Mais... non, mais c'est définitivement mes enfants. Ouais.
Cool. Bon, on va super. S'arrêter sur cette note-là, du coup.
Excellent.
Mathieu, merci beaucoup.
Eh ben merci.
C'est très très cool. En mode on lâche rien,
tu vois.
Ah bah
faire.
Non, on lâche
on
rien.
Lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Bon bref.
Allez,
merci beaucoup Mathieu.
Ciao.
À bientôt. C'était notre épisode avec Mathieu Genel. Merci Mathieu pour ton temps.
Ouais, c'était super cool. Ouais.
Qu'est-ce que t'en as pensé Laurent?
Bah ça faisait vraiment plaisir de discuter en fait de tout le process de Mathieu parce que c'est un vrai process créatif. Mmh. Parce que derrière le côté un petit peu entreprise aussi parce que ça a pris de l'ampleur, des proportions. Mais il a toujours ce souci là. En fait, d'être dans la créativité, de proposer des nouvelles choses, et surtout aussi de développer tout son écosystème. Quand on voit ce qu'il est capable de faire en atelier avec les enfants, les idées qu'il a de développer après pour d'autres formats, pourquoi pas sur scène. Enfin, on en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est aussi des projets qui peuvent l'intéresser. Tout ça montre que à partir d'une idée, en fait, on peut vraiment rayonner et faire pas mal de choses intéressantes derrière.
Mmh. Moi, je pense que ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est tout son aspect autodidacte. Et que voilà, le gars, depuis toujours, il veut raconter des histoires. Il faisait un autre job. Il est planeur stratégique, puis il a quitté le job, il est retourné. Enfin, on aborde aussi ces questions qui sont pas toujours simples, genre
ouais,
tout plaquer pour faire un projet de cœur et puis en fait, devoir quand même trouver une équation économique. Mais Je sais plus ce que je voulais dire.
Bah, en tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand tu es autodidacte, en fait, il y a plein de manières de te former. T'es pas obligé de faire une manière comme tout le monde. Oui. Et on voit que c'est le cas avec Mathieu, notamment, qui déteste lire des livres de développement personnel. Oui, c'est pas son kiff du tout. Il les a, mais c'est pas son kiff. Du coup, il s'est trouvé une autre manière en fait de se former, en allant regarder notamment des masterclass sur internet, ouais. en allant suivre des formations en présentiel. Notamment. Donc du coup, c'est toutes des choses en fait. Si on se donne les moyens, même en partant de rien, ben on peut y arriver quoi. Comme une dizaine, il y a aussi un petit problème dans cet univers là, c'est que si tu n'es pas déjà connu, on te dit tu vas pas vendre quoi que ce soit. Mais en fait si, c'est à force de travail et de convaincre les gens, les partenaires, et ben on arrive quand même à monter les projets.
Ouais, c'est clair. Moi j'aime bien le côté aussi un peu boulot rien à voir. Et bah, il y a sûrement des auditeurs qui nous écoutent.
Ah, oui.
Et qui rêveraient d'écrire un livre ou de développer un projet.
On n'est pas obligé de consacrer toute sa vie à la création, à la créativité. On peut aussi avoir un côté
impossible.
Un travail. C'est pas impossible.
C'est pas impossible.
Et il y a des passerelles et des tuyaux et ça marche.
Voilà, de faire un truc qui a rien à voir et de quand même, petit à petit, comme tu dis, développer un projet de cœur comme ça et puis se former sur le tas. Et puis, on voit bien que ça fonctionne.
Complètement.
Mais bon, voilà, il parle aussi des difficultés, des sacrifices à faire, etc. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une conversation très honnête.
Avec l'envergure du projet viennent de plus grandes responsabilités. C'est toujours, toujours comme ça.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
C'est ça, c'est la phrase.
Bon, ok. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu, que ça a attisé votre curiosité si vous ne connaissez pas encore le podcast. Si ce n'est pas encore le cas, allez écouter Les Petites Histoires sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer.
Ouais, vous faites écouter vos enfants aussi.
Oui, c'est vrai, c'est majoritairement pour vos enfants.
Mais franchement, les histoires sont hyper classe.
Ouais, ma favorite, c'est sur le spécial Halloween. Je me souviens plus du titre, mais le sound design, il est incroyable et... voilà, j'ai mentionné mon épisode préféré.
Super.
Voilà.
Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Quentin Laville, tiens donc, qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club.
Salut, je suis Quentin Laville, je suis illustrateur et animateur, et je suis une patate. Une bonne grosse patate. Si tu trouves que c'est bizarre de dire ça, peut-être que tu connais pas encore le Patate Club. Le Patate Club, c'est quoi? C'est la communauté des gens qui soutiennent financièrement Sens Créatif. Ça permet donc d'encourager et de récompenser le super travail et la passion de Jérémy et Laurent. Mais c'est pas tout. Ça te donne accès à plein d'avantages, et notamment l'accès au Discord Sens Créatif. C'est un lieu de rencontre et d'échange d'une grande tribu de créatifs comme toi. Auprès d'eux, tu pourras trouver des conseils, des bons plans, participer à des ateliers, trouver du soutien, du réconfort, de l'émulation, des collaborations, peut-être des réponses à tes questions, peut-être même des questions à tes réponses. Bref, toute une ribambelle d'outils pour avancer dans ta quête de créatif. Moi, par exemple, en plus d'ouvrir mon horizon et de me faire découvrir plein de choses, ça m'a énormément aidé quand je me suis lancé dans l'aventure d'illustrateur freelance. C'est grâce au Patate Club, notamment, que j'ai fait la connaissance de Mathieu Genel, dont vous venez d'écouter l'épisode, et avec qui j'ai le bonheur de collaborer régulièrement depuis. J'y ai fait plein de belles rencontres, en ligne, mais aussi en vrai, et j'ai même eu la chance de participer à ma première exposition, avec le collectif Patate, justement. Bref, si le podcast Sens Créatif te parle, le Patate Club, ça te parlera, j'en suis sûr. Les participations débutent à 5€ par mois, et pour en savoir plus, tu peux visiter le tout nouveau site patateclub.com. Et pour rejoindre le Patate Club et soutenir Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast ou clique sur les liens dans les notes de cet épisode. À bientôt, bisous.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, notamment les personnes qui aiment l'écriture ou peut-être le podcasting, c'est des sujets qui les intéressent. N'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir et ça permet à Sens Créatif de monter dans les charts.
Et puis vous pouvez également nous suivre sur Instagram évidemment et sur YouTube, Sens Créatif Podcast. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter.
Parce que tu fais ça bien.
Merci.
C'est pas simple de toujours suivre le rythme.
Non.
C'est un petit peu.
Non, j'avoue, le rythme est pas évident pour faire une newsletter parce qu'en fait, en tout cas, moi personnellement, quand je fais la newsletter,
tripes,
j'y mets toutes mes tripes. Hein. J'essaye de livrer vraiment mon ressenti du moment. Et des fois, en fait, quand on en est compressé par le temps, tout simplement, c'est difficile en fait de trouver cette plage là pour le faire. Mais quand je le fais, et la prochaine arrive bientôt,
ouais.
Je m'y mets à fond.
Ouais. On a oublié de préciser que c'est une newsletter. Alors évidemment, il y a les nouvelles de l'écosystème Sens Créatif, les nouveaux épisodes, etc. Mais tu développes
le boxon créatif,
voilà.
Notamment qu'on retrouve dans les épisodes hors série.
Exactement.
De
donc si l'épisode du boxon créatif qu'on vous réinvite à écouter, qui est sorti la semaine dernière, vous a plu, si ce genre de thème vous intéresse, abonnez-vous à la newsletter.
Et puis n'hésitez pas à me donner vos retours sur le Discord, évidemment.
C'est la substantifique moelle de toute ta réflexion que tu développes à l'écrit, et c'est passionnant. Si des choses qui ont été dites dans cet épisode ont titillé votre curiosité et que vous aimeriez savoir c'était quoi ce truc là encore de ce dont vous avez parlé à la 61e minute, eh bien toutes les notes de cet épisode sont à retrouver sur le site senscreatif.fr. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ah, il faut aussi mentionner qu'on a un nouveau site internet, pas senscreatif.fr, mais on a lepatateclub.com et qui défonce. Et donc si le Patate Club vous intéresse,
allez jeter un œil à la page. Il y a tout expliqué.
Tout est expliqué. C'est beau. Il y a des petites animations. Ça, voilà.
Et on remercie évidemment Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes ses compos sur Adrien Guy Musique.
Alors sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec Valérie Cussaguet et Rosane Sanson des éditions Les Fourmis Rouges. J'ai un très beau souvenir de cette interview.
Je pense que c'est un épisode qui va être vraiment très attendu.
Oui. Si le sujet de l'édition, de l'illustration vous intéresse, c'est pour vous. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas
Everything is connected.
Bye bye.
Le coloriage maudit.
J'ai pas envie de rentrer.
Moi, j'ai trop envie d'un goûter, alors pas le choix.
Moi aussi j'ai faim, mais après on devra faire nos devoirs.
Papa me laissera jouer un peu. Il dit toujours que c'est bien de s'aérer la tête après une grosse journée.
Ce qui est fait n'est plus à faire.
Voilà ce que dit ma mère. On travaille toute la journée en classe et le soir, faut encore travailler. Ça se fait pas.
Révoltée, Lina shoota dans un pauvre caillou et se mit à bougonner en traînant des pieds le plus bruyamment possible. Ethan ne dit rien. C'était le mieux à faire. S'il réagissait, son ami se transformerait en tornade de mots et de gesticulations incontrôlables. Bercé par le bruit des pas de Lina entrecoupés de chants d'oiseaux, Ethan se perdit dans ses pensées pleines de crêpes au sucre et de Legos.